Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
CNews, bonsoir à tous. Soir info quelque peu chamboulé, vous l'aurez compris. Prise d'antenne anticipée pour revenir essentiellement sur cette attaque au couteau à Bordeaux. On est avec Jean-Claude Dacier. Bonsoir, cher Jean-Claude. Régis Le Sommier, merci d'être là. Bonsoir, Grégory Juron, secrétaire national Unité, qui est resté avec nous. Et je vous en remercie pour essayer de comprendre et décrypter les premières informations qui nous parviennent de cette ville de Bordeaux. Michael Saadoun, bonsoir et merci d'être bonsoir. Là. Yohann Uzaï du service politique. Amaury Bucco pour toutes les infos police-justice. Ben, rejoindre dans quelques instants. Si vous nous rejoignez seulement à 22h05, donc sur l'antenne de CNews, un homme suspecté d'avoir poignardé ce soir au moins deux personnes sur les quais de la ville de Bordeaux, dont une mortellement a été tuée par des policiers alors qu'il tentait vraisemblablement là aussi de prendre la fuite. Les motifs de l'attaque au couteau ou l'identité de l'agresseur ne sont à l'heure pas connus, soulignent les différentes sources policières, précisant que les faits se sont produits un petit peu avant 20h dans un secteur très fréquenté pour ceux qui connaissent cette ville de Bordeaux, le miroir d'eau sur les quais de la Garonne. Grégory Joron, merci encore donc d'être là pour nous apporter le plus d'informations possibles, même si on peut imaginer que là encore, elle vous arrive au compte-gouttes et que l'enquête, après quelques minutes seulement, est par définition extrêmement floue. Ce que l'on peut dire, avec toute la prudence nécessaire dans ces circonstances, c'est que l'hypothèse de la rixe, pour le moment, est privilégiée. On parle d'attaque au couteau, pas d'attentat, pas d'attaque terroriste. Et pour l'instant encore, le PNAT, le parquet national antiterroriste, n'est pas du tout saisi de cette affaire. Que pouvez-vous nous dire de factuel à 22h06?
Pas grand-chose de plus que ce que vous venez de développer. C'est peut-être le plus important, parce que forcément, dans dans un contexte d'urgence attentat, rappelé par la dimension du match de football ce soir à la Ligue des Champions et les menaces qui ont été faites par certains groupes terroristes, forcément, quand on apprend que malheureusement il y a une attaque au couteau et potentiellement des victimes, on fait le lien assez rapidement. J'ai envie de dire, et pardonnez-moi, mais la bonne nouvelle au milieu du drame, c'est que ça ne semble pas être terroriste. J'ai envie de dire quand même tant mieux, même si ça reste dramatique. On a une victime, potentiellement un blessé, et l'assaillant qui a été neutralisé par mes collègues. Donc, pas plus que ça. Je rappellerai aussi qu'après, tout le reste, ça sera forcément que des éléments d'enquête. Donc moi, je reste évidemment avant tout policier. Il y a forcément des choses qui ne peuvent pas être dites ni diffusées. Et on ne peut pas, je pense, faire l'enquête avant les enquêteurs. Ça semble être dangereux.
Qu'est-ce qu'elles vous disent tout de même, ces images, Grégory Joron? C'est News qui vous montre ces images. Évidemment que nous avons flouté l'assaillant qui est en train d'attaquer l'une de ses victimes sur ces images. On peut le distinguer malgré le floutage. On comprend, là encore, même si on ne connaît pas la ville de Bordeaux, qu'on est sur les quais de la Garonne, que c'est le coucher du soleil, qu'il y a du monde, que c'est assez touristique. En tout cas, c'est un lieu de promenade. Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces images, à vous, policiers?
C'est malheureusement... Ces derniers temps, on peut dire presque le quotidien, c'est factuel, c'est des choses qui arrivent de plus en plus souvent, je le disais tout à l'heure.
Une forme de... Moi, ce que je note, hein, je me permets, la première chose que je me dis, mais évidemment, c'est toujours beaucoup plus facile de parler quand on voit les images que lorsqu'on est sur place, c'est que je vois une forme d'indifférence un petit peu autour. Hein, alors, il y a une personne qui s'arrête, là, on voit, qui est à gauche de la scène, qui prend un peu ses distances, et puis autour, des gens qui continuent à se promener. Je le dis à nos téléspectateurs, mais là encore, pour des raisons assez évidente. On ne va pas diffuser le son de cette vidéo, mais on entend la victime qui hurle et qui dit à l'assaillant « arrête, arrête ». Et on peut imaginer la terreur dans la voix de cet homme. Et je suis assez étonné de voir que voilà, les gens continuent aussi peut-être de se promener sans... Peut-être qu'il n'y a pas de prise de conscience aussi tout de suite de ce qui est en train de se passer.
Moi, je ne le suis pas vraiment parce que déjà, je pense qu'il faut être extrêmement humble face à ce genre de situation parce que personne ne réagit exactement de la même manière. Il y a des gens qui vont fuir, il y a des gens qui vont avoir peut-être tendance à vouloir intervenir. Je rappelle juste que ça a été dit tout à l'heure, quand on a une personne armée d'un couteau, Même des combattants vont vous expliquer que le mieux, c'est peut-être quand même de prendre la fuite et d'essayer de donner le maximum d'informations aux forces de sécurité et pas d'intervenir parce que c'est extrêmement compliqué d'avoir le dessus. Et puis en même temps, imaginez que vous baladez, justement, vous l'avez dit, en fin d'après-midi, en fin de journée, sur les quais où vous faites un footing. Le temps de réagir sur ce qui se passe autour de vous, il y a forcément une latence qui est, à mon sens, assez normale, en fait, et assez humaine, finalement.
Une information très importante qui nous provient d'Antoine Estève, notre correspondant CNews à Bordeaux. Alors déjà, cette information plus qu'importante, puisque la seconde victime de l'assaillant, deux victimes, hein, une qui est décédée et l'autre qui n'est plus, à l'heure où l'on se parle, en état d'urgence absolue. Donc on va se réjouir pour cette personne, même si ça n'enlève rien à la gravité de cette scène. Je rappelle qu'une victime est décédée et que l'assaillant a donc été abattu par la police. Quelques infos recoupées également par différentes sources policières. Il y aurait donc eu, Grégory, une bagarre entre l'assaillant et un groupe d'hommes en train de consommer de l'alcool juste avant les faits. Pour le moment, donc je le répète, aucune qualification terroriste. Et le lieu où s'est déroulée la scène, je le disais, abrite, enfin ça je ne le disais pas, mais Antoine le précise, abrite beaucoup de marginaux tous les soirs. Un cocktail qui pourrait expliquer, on est aussi à la fin du ramadan, chacun sait, on parle d'une rixe entre des gens qui venaient célébrer Eid al-Fitr, qui est la fin de ce jeûne d'un mois. Est-ce que ce sont des éléments qui vous paraissent cohérents et qui peuvent susciter un début d'explication?
Oui, en tout cas, ça semble être plausible. Alors après, s'il y a beaucoup de marginaux, c'est que malheureusement, il y a aussi souvent des altercations extrêmement violentes, notamment avec des armes blanches. Alors après, j'ai envie de dire, ça, les armes blanches, c'est un peu le fléau de notre société en ce moment. Donc oui, tout ça semble plutôt cohérent et donne un fil d'histoire, je pense, assez plausible sur ce qui s'est passé ce soir.
Avant de faire un tour de plateau, évidemment, d'entendre les commentaires des uns et des autres, vous disiez, et on le rappelle surtout aussi à nos téléspectateurs, c'est un policier qui a abattu cet homme. Alors déjà, est-ce que c'est un policier national ou un policier municipal? Parce que l'information a son importance.
Un policier national, il a utilisé une arme longue, donc un HKG-36, donc c'est un policier national.
Arme longue, ça veut dire quoi?
C'est une arme collective, c'est pas une arme individuelle, c'est pas son pistolet, c'est un fusil d'assaut. Oui.
Qui est dans les véhicules et qui est à disposition de l'équipage, en l'occurrence de police. On sait comment la police a réussi à appréhender cet homme, des faits qui étaient en train de se dérouler, parce qu'a priori, si l'homme était en train de prendre la fuite, c'est que la police est intervenue vraiment au moment des faits, qu'il y avait une proximité forte entre le lieu de l'agression et là où était stationné cet équipage de police.
J'ai pas l'information. Après, vraisemblablement, le temps a été très court. Donc ils étaient peut-être, c'est sûrement sur place. On est dans le centre de Bordeaux, qui est quand même forcément avec une présence policière visible. Et je ne sais pas exactement comment ils sont arrivés sur place. Mais en tout cas, je sais par contre que le temps était extrêmement rapide, et tant mieux.
Premier commentaire, un tour de plateau, et bien sûr, vous êtes notre témoin privilégié ce soir, cher Grégory. Régis Le Sommier, peut-être une première réaction. Alors, on s'écarte, mais comme ça fait seulement quelques minutes que tout cela est arrivé, on parle au conditionnel, on est prudent. En tout cas, pour le moment, on n'est pas dans une piste terroriste, mais dans une violence inouïe, imprévisible, qui peut frapper n'importe où, n'importe quand, encore une fois. Alors là, c'est pas terroriste, mais c'est terrorisant.
Non, c'est terrorisant, et puis surtout là où ça se passe, quoi, c'est qu'on est quand même à Bordeaux. Alors même si, en effet, dans cet endroit-là, il y a des marginaux, on est quand même dans un lieu de promenade de tous les Bordelais, les quais de la Garonne, le quai Richelieu, l'endroit où l'individu a été abattu par la police, c'est du côté de Bir Hakeim, donc c'est aussi un endroit extrêmement touristique. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est quel que soit là, visiblement, le caractère terroriste n'est pas retenu, mais on peut noter quand même une intervention très rapide de la police, ce qui me rappelle celle, là, pour le coup, il y avait une motivation terroriste qui s'est passée pas très loin d'ici, à Bir Hakeim, au pont de Bir Hakeim, où là, un individu avec des motivations djihadistes avait tué au couteau un jeune Allemand. Et la police l'avait capturé au taser à l'époque, mais était intervenu extrêmement rapidement. Donc ce qu'on remarque quand même, et on peut que se réjouir de ça, c'est que quelles que soient les circonstances et le type d'agression commise, les motivations, la police française en tout cas intervient très très rapidement. Et ça c'est quand même une marque de sécurité. Voilà.
Le maire de Bordeaux qui a réagi sur son réseau social. On va voir ce que dit Pierre Urmic, maire écolo de Bordeaux. Attaque au couteau dans la ville. Donc, je me suis rendu immédiatement sur place pour recueillir les informations auprès de Madame la procureure de la République et Monsieur le préfet. L'enquête judiciaire est en cours. C'est laconique, c'est le minimum syndical pour le maire de Bordeaux. Je suis assez frappé, mais bon, on va peut-être pas polémiquer dans les premières minutes de cette attaque, mais je suis assez frappé qu'il n'y ait pas peut-être un mot pour la victime.
Oui.
Mais on aura peut-être le temps d'en parler un petit peu plus tard, alors qu'on est à chaud sur une émotion grande et forte. Madame Diaz, Edwige Diaz est avec nous avant de poursuivre ce tour de plateau. Bonsoir, Madame la députée de Gironde. Merci beaucoup d'être avec nous. En tant que députée de ce département, que savez-vous ce soir de plus que ce qu'on a dit il y a un instant sur ce plateau pour décrire ce qui s'est passé dans la ville de Bordeaux ce soir? Avez-vous plus d'éléments?
Non, je pense que vous avez bien décrit la situation, mais moi je me permettrai de rajouter qu'au Rassemblement national, ça fait des années que nous alertons sur l'explosion de l'ensauvagement qui gangrène cette ville. Vous savez, on dit qu'en France, il y a 120 attaques au couteau par jour. Mais à Bordeaux aussi, il y a une recrudescence d'attaques au couteau. Je vous rappelle qu'à l'été 2020, juste en 2 mois, ce sont 26 personnes qui ont été agressées au couteau. Et Bordeaux est la 10e ville la moins sûre de France. Et donc, en fait, ce résultat effroyable est... Finalement, à la fois le bilan de Pierre Urmic, qui avec ses amis de la NUPES souhaite par exemple désarmer la police, mais c'est aussi le bilan de Gérald Darmanin et de M. Éric Dupond-Moretti, qui dit que la France n'est pas un coupe-gorge. Donc moi, si vous me permettez, je voudrais adresser une pensée pour les victimes agressées, aux policiers aussi, et enfin aux Bordelais qui en ont ras-le-bol de vivre dans un tel sentiment, avec un tel sentiment d'insécurité. Parle plus de ce problème-là.
Allez-y, madame,
que les autres. En fait, ouais. Je vous disais qu'il y a très souvent, malheureusement, des attaques au couteau à Bordeaux. Mais peut-être pourquoi on parle un peu plus de celui-là que les autres, c'est parce que celui-là, il a eu lieu en plein jour, au niveau du Miroir d'eau, donc en fait, qui est un lieu très touristique à Bordeaux, et qu'il a été réalisé par une personne vêtue d'une djellaba qui portait une barbe dans un environnement, en tout cas dans une temporalité, où le caractère djihadiste n'est peut-être pas à écarter.
Selon nos confrères de Sud-Ouest, je découvre avec vous cette information, selon nos confrères de Sud-Ouest, donc encore une fois, source médiatique et on prend des pincettes, l'agresseur vêtu d'une djellaba, comme vous venez de le rappeler, aurait reproché à un groupe d'origine nord-africaine de boire un coup, et je le cite entre guillemets.
Oui, ben peut-être que ça a un lien avec la fin du Ramadan. En tout cas, on verra ce que l'enquête dira. Mais c'est vrai que là, on est dans un contexte où le niveau d'alerte terroriste a été poussé à son maximum, que c'est un homme qui ne respecte pas les codes culturels français, puisque vraisemblablement, il se promène en centre-ville avec sa djellaba et il a une barbe. Alors peut-être que...
Il n'y a aucune loi qui interdit de se promener dans une ville avec une djellaba et une barbe, madame Diaz. Hein, je me permets de le rappeler également. Hein, dans l'espace public, chacun se comme il le souhaite. Hein.
Je suis d'accord, je dis juste qu'il y a peut-être un faisceau d'indices concordants et que peut-être que l'enquête nous dira qu'une fois de plus, nous sommes confrontés à un acte d'origine terroriste islamiste. En tout cas, si c'est le cas, je peux vous dire que nous n'aurons pas peur de mettre les mots sur la réalité des choses.
Alors, je rappelle là encore, pour être purement factuel, que les sources policières et le parquet, pour l'instant, rappellent qu'il ne s'agit pas d'une piste terroriste à éclaircir, mais bien d'une rixe et d'une attaque au couteau. Mais encore une fois, seulement quelques minutes viennent de s'écouler. Vous, qui êtes la députée de Gironde, qui connaissez par définition parfaitement cette ville de Bordeaux, est-ce que vous pouvez nous décrire cette partie de la ville, ce miroir d'eau de Bordeaux, ce qu'il représente pour les Bordelais, à quel point il est fréquenté, est-il plus ou moins fréquentable d'ailleurs une fois le coucher du soleil? Comment nous décrire cet endroit de la ville, cette partie de la ville?
Oui, alors c'est vrai que la journée, c'est un très bel endroit. Donc c'est un miroir d'eau, les enfants y viennent, surtout quand il fait nuit tard, surtout quand il fait un peu chaud. Mais c'est vrai que de plus en plus, parce que le maire de Bordeaux est vraiment dans le déni, vous savez, c'est un écologiste, il est dans l'idéologie NUPES. Eh bien, en fait, de plus en plus, nous avons le soir ce qu'on appelle des bandes de jeunes, mais en fait, ce sont surtout des délinquants qui viennent Un peu picolé, un peu agressé. Et oui, il y a souvent des rixes entre bandes et la presse révélait qu'il y avait aussi beaucoup d'agressions perpétrées par les mineurs non accompagnés. Vous savez, c'est un vrai fléau, les mineurs non accompagnés à Bordeaux. Et donc, oui, c'est vrai que là, on parle un peu plus de ce coup de couteau parce qu'il a été fait dans de telles circonstances, mais tout ça n'est que l'arbre qui cache la forêt. Et oui, je le dis, les Bordelais le savent, il y a une vraie insécurité montante à Bordeaux et je peux rassurer les Bordelais et je peux leur dire qu'en 2026, au moment des élections municipaales, ils pourront faire le choix.
Madame Diaz, est-il l'heure de faire de la politique ? Pardonnez-moi de vous couper la parole, mais est-il l'heure d'appeler à voter pour les élections européennes ? J'entends que vous saisissiez cette occasion. Je me permets de poser ma question et je vous rends tout de suite la parole. J'entends que vous saisissiez cette occasion pour rappeler que le projet bordelais de Pierre Urmic n'est pas le vôtre. Ça, nous l'entendons tous parfaitement. On peut peut-être aussi imaginer qu'une attaque comme celle-là, aussi imprévisible qu'elle soit, peut arriver dans tout type de municipalité, quelle que soit l'orientation politique de celui ou celle qui la dirige.
Oui, mais je dis juste en fait que l'insécurité à Bordeaux explose depuis des années. Vous voyez, en 2023, ce sont plus 12% d'atteintes aux personnes qui ont eu lieu à Bordeaux, plus 5% de délinquance sur la voie publique et plus de 28% d'attaques sexuelles à caractère sexuel. Donc, à un moment donné, oui, il y a des responsabilités politiques qui doivent être dénoncées et nous, au Rassemblement National, nous avons le courage de le faire. On ne se satisfait pas de voir de plus en plus de Bordelaises et de Bordelais vivre la peur au ventre, s'interdire de sortir le soir, des femmes qui font attention, qui mettent en place la stratégie d'évitement, qui font attention à comment elles s'habillent. Et oui, je le dis, il y a une responsabilité politique dans ce sentiment d'insécurité légitimement ressenti par les Bordelais.
Merci beaucoup d'avoir réagi en tout cas sur l'antenne de CNews. Edwige Diaz, je rappelle que vous êtes député Rassemblement National du département de la Gironde. Jean-Claude Dacier, qu'on n'a pas encore entendu, est-ce que vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit par la députée sur notre antenne ? Je rappelle deux informations majeures après cette attaque. C'est que la deuxième victime qui était dans un état très grave, il est toujours dans un état grave, mais son pronostic vital n'est plus engagé. Et puis une source proche du parquet nous informe que la piste terroriste, à l'heure où l'on se parle, est écarté. Voilà pour ces deux infos factuelles en marge de cette tragique attaque bordelaise.
Je ne vais pas conclure aussi vite que notre invitée, que je peux comprendre, elle fait de la politique suite à ce qui reste une tragédie du quotidien. Moi, ce que je dis simplement, c'est que je pense que ce que tous les Français pensent ce soir et partagent avec moi, c'est que les attaques au couteau deviennent, vous parliez tout à l'heure, cher camarade, du quotidien. C'est peut-être pas le quotidien, mais c'est d'une telle fréquence. Combien y en a-t-il eu d'attaques au couteau ? Ça fait.
Mais Jean-Claude, vous connaissez les chiffres, et des chiffres qui datent de 2017. Je pars sous le contrôle de Grégory Geron. 120 attaques au couteau par jour.
C'est effrayant parce que.
Ce sont des chiffres de 2017. Donc imaginez en 2024.
Des couteaux, il y en a dans toutes les familles. Vous ouvrez un tiroir, vous prenez un couteau et vous partez. Deuxième remarque. L'information de nos amis de Sud-Ouest est exacte, à savoir qu'il y a eu une intervention donc, de cet assaillant en reprochant à des camarades à lui, peut-être, de boire un coup.
Camarades ou pas, aucun lien n'est établi alors qu'on se parle entre ces gens.
En effet, on est quand même dans une espèce de règlement de compte entre rigoristes de la religion musulmane, qui apparemment... ne goûte pas une goutte d'alcool, quelle que soit la saison, et puis peut-être des Algériens qui sont des citoyens, qui sont sur la voie de l'intégration, voire de l'assimilation, et qui ont bu un coup ce soir, peut-être même après avoir observé les contraintes et du ramadan. C'est tout ce qu'on peut dire ce soir, mais encore une fois, ce qui me terrorise, moi, c'est que vous promenez tranquillement sur un quai à Bordeaux ou ailleurs, dans combien de villes de France, et vous risquez votre vie si vous avez ou un téléphone portable.
Bienvenue, Jean-Claude, dans la société de l'hypervigilance.
Oui, mais...
Depuis une dizaine d'années, désormais.
Ce qui me terrorise, c'est l'utilisation répétée, multiple, du couteau. Encore une fois, c'est une arme que vous trouvez partout. On ne va quand même pas interdire la vente au couteau, la vente des couteaux, et donc on est confronté à une situation, je dirais un mot peut-être du terrorisme dans un instant.
Même le parquet nous rappelle que la piste terroriste est écartée.
Néanmoins, les messages qu'on a entendus depuis 24 ou 48 heures à l'occasion du match de ce soir peuvent avoir influé sur un esprit fragile.
C'est possible également, mais ça reste pour l'instant de l'ordre de la supputation, si je puis dire. Amaury Bucco qui nous a rejoint en plateau pour les questions de police-justice. Amaury, peut-être plus d'éléments de compréhension autour de cette affaire avec vous.
Ben alors moi, ce que j'ai déjà, c'est une source policière locale qui me confirme ce que dit le journal Sud-Ouest sur le mobile. Comment ça...
Donc le reproche à des jeunes nord-africains qui étaient en train de boire de l'alcool.
La risque qui aurait éclaté et les coups de couteau. Et si ce n'est pas effectivement le mobile terroriste n'est pas retenu à ce stade, ça ne veut pas dire, il faut quand même en avoir conscience, qu'il n'y a pas un mobile idéologique ou religieux. Si vous voulez, la RICS, l'élément de départ, peut être tout à fait quelque chose d'identitaire, de religieux, justement attrait à l'Aïd ou au Ramadan, je ne sais pas, puisqu'en plus cet homme était en djellaba, donc peut-être qu'il allait lui-même à la mosquée où il en revenait. Et donc ce n'est pas parce que ce n'est pas terroriste, ce n'est pas lié à une organisation terroriste que ce n'est pas religieux. C'est ça, je veux dire, là-dessus, il faut faire très attention. En tous les cas, ce que dit Sud-Ouest là-dessus, ça m'est confirmé par une source policière locale.
Pardon ?
Bah non, mais voilà, j'ai dit ce que j'avais
dit. Mikkelsen, parce qu'on parlait dans l'oreillette en même temps, je suis désolé,
non, je
cher Amaury. Mikkel Sadoun.
Non, mais c'est toujours difficile de prendre la parole sur un événement sur lequel on a encore peu d'informations. Mais en réalité, quelles que soient les conclusions, j'ai envie de dire, de cette enquête, on peut comprendre ce fait comme un fait de société. Puisque s'il s'agit d'une rixe, on a vu que c'était en explosion depuis quelques jours et que la violence aux personnes explosait un peu partout en France. Si c'est à caractère religieux, il y a évidemment un sujet avec l'intégration de l'islam en France.
Mais je vais vous dire, si ce que dit Sud-Ouest se confirme ce soir... Moi, je pense à Samara.
Évidemment.
Vous avez aussi une jeune fille qui a été agressée.
De toute façon, de certains sur.
Évidemment. Hein. C'est pour ça que je dis que de toute façon, pardon, Amaury. Hein,
je vous en prie, non.
C'est de toute façon un fait de société. Par ailleurs, c'est un fait de société parce que, à Bordeaux en particulier, alors déjà dans toute la France, il y a une augmentation du taux d'homicidité. Ça, c'est un chiffre qui est régulièrement rappelé, notamment par Alain Bauer. Mais en particulier à Bordeaux, il y a eu une explosion de la violence. Non seulement depuis Pierre Urmic, mais même un petit peu avant, en réalité, si on veut être honnête, depuis 2016, la violence augmente à Bordeaux. J'ai relevé quelques chiffres ici, mais hausse des crimes et délits de 25% entre 2016 et 2019. Pierre Urmic n'était pas encore au pouvoir. Alors après, son accession au pouvoir n'a pas arrangé les choses, ça c'est une certitude. Plus 32% de coups et blessures entre 2022 et 2023, ça c'est un chiffre qui est relevé notamment régulièrement par l'opposition là-bas. Plus 15% d'atteinte à la personne. Edwige Jass parlait de 12%, moi j'ai relevé 15%. C'est des chiffres énormes qui témoignent évidemment d'une tendance de fond liée à peut-être la présence de l'immigration, à une hyper-violence de la société, mais en plus à une mauvaise gestion de la mairie, ça c'est sûr.
Yohann Uzaïk, qu'on n'a pas encore entendu dans ce premier tour de table.
Oui, écoutez, on voit bien que l'ultra-violence, une nouvelle fois, a gagné définitivement. Pour le moment, en tout cas, la société.
Écoutez, depuis. On peut pas dire ça, Johan.
Si, l'ultra-violence a gagné définitivement. Écoutez, pour l'instant, oui, manifestement, tous les gouvernements ont essayé de lutter contre l'insécurité. C'est un thème qui occupe l'actualité depuis des années, voire des décennies. Je vous rappelle que la campagne présidentielle de 2002, déjà, s'est faite de manière quasi intégrale sur la sécurité. L'ensemble des gouvernements essaie de lutter contre l'insécurité. Or, l'insécurité ne fait que progresser. Prenez les chiffres de la violence qui viennent du ministère de l'Intérieur. Si vous comparez 2023 à 2022, il y a une augmentation significative, pour ne parler que de ça, des homicides et des tentatives d'homicide. Donc oui, l'ultra-violence a gagné notre société. Et que font les municipalités, notamment de gauche ou d'extrême gauche, pour lutter contre cette hyper-violence? Eh bien, pas grand-chose en réalité, parce qu'il se trouve qu'à Bordeaux comme à Paris, la police municipale n'est pas armée. Donc, quand vous refusez d'armer une police par idéologie, alors même qu'on voit bien que l'ultra-violence est donc par définition la terreur qui n'est pas liée qu'au terrorisme, on en a encore l'exemple aujourd'hui, eh bien, vous voyez que ces municipalités n'ont pas pleinement conscience du problème qui est en train d'arriver.
Est-ce que ça veut dire, Grégory Joron, et Régis, je vous vois, je viens vers vous dans une minute, est-ce que ça veut dire que si l'effectif de police qui avait été à proximité au moment des faits était des policiers municipaux, ils n'auraient pas pu maîtriser cet homme ?
Je ne sais pas de quel équipement est dotée la police municipale de
Bordeaux. Est-ce qu'ils ont moins des tasers, les municipaux?
Je ne sais pas. Alors, dans certaines municipalités, oui, ils ont des tasers, ils ont des bombes lacrymogènes, ils ont des bâtons télescopiques. À minima, quand vous avez quelqu'un de déterminé...
Mais est-ce que vous avez envie d'intervenir quand vous avez seulement un bâton télescopique?
J'allais vous le dire, je pense que un taser, c'est mieux. Un bâton télescopique, vous prenez déjà énormément de risques, c'est une réalité. Je le répète, à moins d'être un combattant aguerri et encore face à quelqu'un qui a un couteau et qui est déterminé, c'est toujours d'une extrême dangerosité. Donc c'est pour ça qu'on maintient une distance, que le taser est une, plutôt une bonne arme et permet de neutraliser justement les gens à distance. Et que malheureusement, face à un couteau, le cadre de légitime défense ou d'usage des armes s'applique. Et c'est ce qu'a fait mon collègue tout à l'heure.
Vous comprenez cette volonté? Enfin, la question et la réponse dans la question. Parce qu'évidemment que de votre point de vue, la réponse sera non, mais c'est différentes municipalités qui rechignent à armer leurs municipaux quand on connaît ces augmentations de violence, ce risque imprévisible où que l'on soit, et cette menace terroriste à quelques dizaines, centaines de jours des JO qui plane sur notre territoire.
Non, forcément. Donc du coup, non. Pourquoi ? Parce que j'ai participé aux premières tables rondes post-Charlie Hebdo sur l'armement des policiers hors service, où il y avait déjà énormément de difficultés à ce qu'on puisse obtenir. Il a fallu dramatiquement qu'on fasse le constat du Bataclan pour qu'on puisse franchir le pas et être armé hors service. Et je rappelle que malheureusement, Charlie Hebdo, c'est aussi Clarissa à Montrouge, policière municipale, Jean-Philippe, qui, elle, a été abattue sans être armée, je crois. Et je crois qu'à partir du moment où on a un uniforme aujourd'hui et qu'on est sur la voie publique, je l'ai dit tout à l'heure, et qu'on a affaire à des déséquilibrés en tout genre, je ne pense pas qu'ils lisent ce qu'on a dans le dos. Je ne suis pas sûr qu'ils soient intéressés par le police municipale ou police nationale.
Il y a quand même un avant et un après 2015 dans la façon dont les forces de l'ordre sont capables de réagir, ont le matériel pour le faire, les équipements et les différents réflexes. Peut-être que ce policier ou ces policiers qui ont neutralisé cet homme ont réagi ou pensé différemment leur métier avant 2015.
Mais c'est une évidence. C'est une évidence parce qu'il a fallu du temps. Il a fallu 11 mois pour qu'il y ait une prise de conscience. Je le redis, Charlie Hebdo n'a pas suffi. Il a fallu le Bataclan pour qu'on passe vraiment le cap. On se dise, OK, on a changé de monde, le monde a réellement basculé. Et là, pour le coup, c'est mis en place les process de formation à la tuerie de masse. On a été doté de matériel, dont le HKG-36.
Qui est ce fameux fusil qui a été utilisé aujourd'hui pour maîtriser l'homme.
Encore une fois, ce n'est pas drôle. Avant 2015, les CRS, par exemple, dont je faisais partie, avaient une arme en bois des années 60, qui était un fusil en 5,56, extrêmement efficace. Mais on parle des années 2020.
Il a fallu se mettre à niveau, comme on dit.
Il a fallu se mettre à niveau sérieusement pour être justement...
Je pense pas que ce qui est, il y a un phénomène quand même qui est inquiétant si on prend les informations de nos confrères de Sud-Ouest et du policier que vous avez cité, c'est qu'il y a quand même on peut observer, vous avez évoqué Samara tout à l'heure et d'autres cas.
C'est la première à qui j'ai pensé en évoquant ce parallèle.
C'est-à-dire qu'on est dans une sorte d'application d'une police des mœurs. Tels que des groupes djihadistes ont pu l'appliquer à Tombouctou quand ils contrôlaient des zones où des individus se chargent justement de faire observer. Et on peut noter qu'aujourd'hui, à Eschenheim, dans le Bas-Rhin, une collégienne de 13 ans a été molestée par plusieurs élèves de son établissement scolaire parce qu'elle ne respectait pas le ramadan.
C'était hier ou avant-hier, oui.
Oui, c'était en tout cas, voilà. Et là, visiblement, d'après les informations qu'on a, on a un individu qui voit deux personnes en train de boire.
D'alcool.
La rupture du jeûne n'a pas eu lieu. Et donc, il va les interpeller et essayer d'appliquer en disant... vous devez respecter. Donc là, il y a quand même quelque chose de singulièrement inquiétant et nouveau sur les territoires français, parce qu'on n'est pas dans la tuerie de masse, on est plutôt dans la tentation...
Qu'on a beaucoup refusé de voir et qui nous saute au visage aujourd'hui.
Et que là, il y a des gens qui... évidemment, c'est une infime partie des musulmans, mais où il y a des gens qui se permettent de dire aux autres « Vous ne respectez pas le jeûne, vous ne respectez pas... » et visiblement, cet individu...
Et parfois, ce n'est pas juste à l'échelle individuelle, mais à l'échelle d'un quartier. Puisque à Montpellier, c'est le quartier de la paillade, et ces codes qui règnent et qui empêchent à cette jeune Samara de se vêtir comme elle le voudrait, par exemple.
Quand je dis police des mœurs, c'est au niveau de l'école maintenant. C'est-à-dire qu'on tente justement d'essayer de d'imposer à certains individus qu'on dit vous êtes faites partie de notre communauté, vous devez avoir une telle tenue vestimentaire, vous pouvez pas pour le cas de Samara en l'occurrence porter les cheveux rouges, vous teindre les cheveux, etc., etc. Donc ça, on est dans le cadre d'une police des mœurs islamiste qui commence à s'imposer ou en tenter de s'imposer sur le territoire national.
On est dans le cadre d'un, effectivement d'une police des mœurs et par définition, par conséquence, d'un conflit de civilisation.
Nous serions, hein, vraiment, j'insiste auprès de chacun pour qu'on fasse attention à ce qu'on dit et à la temporalité qu'on utilise.
Il y a deux sources quand même.
Si on reprend l'exemple de Samara, de ce qui
s'est passé... Le procureur parlera demain, on m'informe-t-on dans l'oreille.
De ce qui s'est passé dans le Bas-Rhin, pour reprendre les propos de Régis, on assiste là à un conflit de civilisation. Encore une fois, on commentait la même chose hier, si vous voulez, mais il est évident que ces deux civilisations sont appelées à être en conflit permanent, parce que nous vivons avec nos mœurs, notre civilisation occidentale, entre guillemets, et les personnes qui veulent vivre un islam dit rigoriste ne peuvent pas respecter les valeurs de la République en vivant cet islam de manière rigoriste, de la manière dont ils la pratiquent, par définition, ça n'est pas compatible avec la République et avec le mode de vie qui est le nôtre. Donc il y a ce conflit de civilisation qui désormais s'est installé entre une partie de la population.
La procureure de la République de Bordeaux nous dit qu'il n'y aura pas de version officielle sur le mobile avant demain et une communication donc de cette même procureure. Je vous ai vu, cher Michael et Jean-Claude, je sais, veut prendre la parole. Je voudrais juste que vous voyez avec moi ces trois tweets politiques de trois axes politiques différents. Jordan Bardella du Rassemblement National. Merci aux policiers de Bordeaux qui a évité un carnage en abattant un assaillant au couteau. Il y a désormais de plus en plus dans les rues de France des individus qui veulent l'application de la charia et sont prêts à imposer par la violence. Urgence d'un sursaut, dit Jordan Bardella. Sandrine Rousseau de l'autre côté de l'échiquier politique pour Europe Écologie Les Verts. Toutes mes condoléances et mes pensées aux proches des victimes de l'attaque au couteau de Bordeaux. Et puis Valérie Boyer, sénatrice LR, qui communique également. Je salue le courage, la célérité des policiers qui à Bordeaux ont neutralisé l'assaillant au couteau. Égale des vies qui ont probablement été sauvées par leur intervention. Merci aux forces de l'ordre national, aux municipales, pour leur engagement au quotidien. Oui, Jean-Claude et Michael Sadoun.
Ouais, je voudrais dire un mot sur les déclarations, je pense que c'est aujourd'hui, de Gérald Darmanin sur la drogue. Et en substance, dit-il, la drogue, c'est le problème numéro un, c'est ce qui doit inquiéter de prime abord les Français, car c'est une situation extraordinairement difficile,
complexe. C'est 25% complexe. Des crimes et délits dans ce pays.
C'est cela. Et je me demande si, et les déclarations de M. Darmanin, ne sont pas là pour minimiser et minorer les phénomènes plus directement liés à l'immigration. Au conflit de civilisation dont tu parlais tout à l'heure, à juste raison, Johan, à mon avis, qui fait qu'on a des drames comme ça, comme celui de ce soir au quotidien. Et je suis frappé du fait que le président de la République ne dit pas un mot sur tout cela depuis longtemps.
Il a lui parlé de décivilisation, ce qui, à mon sens, n'est pas le même phénomène.
Mais il me semble qu'il devrait tout de même prendre conscience de ce que pensent et la manière dont réagissent les Français quand ils voient ce genre de fait de société, parce que ce n'est pas simplement un fait divers, et s'inquiéter, encore une fois, sur le fait que, très souvent, si ce n'est au quotidien, très souvent, on assiste à des conflits. On a parlé de Samara, on parle ce soir d'un conflit entre religieux, parce que les uns buvaient un coup et que l'autre ne l'a pas supporté. Est-ce que la France va vivre sans que le président de la République dise un mot sur cette situation ?
Il l'a déjà évoqué. Mais la multiplication de ces événements va peut-être le pousser dans ses retranchements et l'obliger à...
Et dans le même, si j'ose dire, dans le même mouvement, je pense que le garde des Sceaux, lui aussi, devrait dire un mot sur une situation dont l'épisode suivant dépend pour beaucoup de l'attitude qu'auront les magistrats, en l'occurrence là. Mettons les choses un peu à part, puisque ça a l'air d'être un peu de nature différente. Néanmoins, on ne peut pas nier, Johan, tu l'as dit et tu as parfaitement raison, qu'on est trop souvent, et que ça se termine trop souvent mal, dans des conflits, des jeunes ou des moins jeunes, de gens qui d'ailleurs ne pratiquent pas la même religion, ou s'ils pratiquent la même religion, ne la pratiquent pas de la même façon.
Bah oui. En parlant de jeunes et moins jeunes, Mickaël, je ne vous oublie pas, je reviens à vous dans une minute, juste une question factuelle, peut-être soit à Maurice, soit à Grégory Geron, peut-être ni l'un ni l'autre d'ailleurs, mais est-ce qu'on a des informations sur les victimes, leur profil, leur âge, qu'ils sont justement des jeunes, des mineurs, des adultes? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question à 22h38 à Maurice ou Grégory? Non, pour Grégory.
Moi, on m'a confirmé en tous les cas, pareil, cette information du Parisien qui dit que parmi le mort, donc serait, enfin la victime décédée serait un ressortissant algérien âgé de 36 ans.
36 ans.
On ne confirme pas en revanche qu'il ait été touché à la gorge, ça c'est ce que dit Sud-Ouest. Et après, moi je voulais juste revenir sur ce que...
Alors ça, vous me l'apprenez, moi. C'est, donc il est confirmé que la victime qui est décédée a été attaquée au couteau au niveau de la gorge.
C'est une confirmation de source policière qui me confirme cette
avec
information.
Avec un coup de couteau ou plusieurs coups de couteau?
Alors ça, je n'ai pas l'information de comment il est décédé. Mais ce que je voulais juste dire aussi, c'est que je comprends les réserves, entre guillemets, du parquet, du procureur, qui dit qu'on va attendre demain pour avoir une version... puisque vous avez à la fois l'auteur qui est décédé, bah oui, une des victimes qui est décédée, et l'autre qui est dans un état grave. Donc ça va être très compliqué de savoir ce qui s'est
après,
passé.
Il y a beaucoup de témoins, on voit sur cette scène.
Oui, mais est-ce qu'ils savent exactement ce qui s'est dit? C'est ça qui va être difficile. Alors, la victime qui est blessée, elle, espérons qu'elle se rétablisse et qu'elle puisse rapidement dire ce qui s'est passé.
Bien sûr.
Mais là, à ce stade, c'est vrai que c'est compliqué de savoir précisément ce qui s'est passé entre ces trois personnes. Malheureusement.
Il y a des témoins quand même.
Oui, non, et bien sûr qu'il y a des témoins, mais est-ce qu'ils ont entendu?
Mais après combien de temps, entre le moment où il y a un contact, ne serait-ce qu'oral, entre ces trois personnes et le moment où il y a une attaque?
L'élément déclencheur, c'est
peut-être qu'il y a eu du temps.
Non, mais j'imagine que les personnes qu'on voit sur cette vidéo vont être interrogées.
Les gens du Sud-Ouest n'ont pas inventé non plus cette déclaration.
Ce que je veux dire, c'est que ça va prendre, ça va être compliqué pour le parquet et les policiers d'aller interroger les victimes,
jusqu'à
la
demain,
victime survivante, puisqu'elle est dans un état grave et que les deux autres sont décédés.
Mickaël Sadoun.
Non, alors déjà, je voulais mettre les précautions qu'il faut mettre, puisque quand on parle de ces sujets, on parle de 5 à 10 millions de personnes dans ce pays, si on parle des musulmans de ce pays, donc j'aimerais ne pas tous les mettre.
Non, on a parlé d'un islam rigoriste.
Peu importe.
Ça ne concerne pas 5 millions de musulmans.
Non, bien sûr, mais oui. Je mettrais même une distance entre celui qui pratique l'islam pour lui de manière rigoriste et celui qui a envie de l'imposer dans l'espace public. Certains pensent que l'islam est un code politique et juridique et donc qu'il a vocation à s'imposer dans l'espace public. Tout le monde n'est pas d'accord sur ce fait, donc je voulais simplement établir ça. Non.
Il me semble que pourtant
non,
c'est...
Mais...
Certains
considèrent que le soufisme est une pratique rigoriste de l'islam qui n'implique pas d'avoir une
emprise politique. Il y a tellement de sous-filiales qu'on a du mal à s'y retrouver.
Évidemment, je suis entièrement d'accord. Maintenant, il faudrait la confirmation du fait qu'il y a une raison religieuse à cette attaque. Si c'est le cas, c'est évidemment symptomatique d'une religion qui a de plus en plus vocation à s'imposer dans l'espace public. Et j'aimerais dire une chose, c'est que Johan a dit tout à l'heure que tous les gouvernants qui s'étaient succédés avaient essayé de lutter contre cette violence ou contre l'emprise de la religion. Je ne suis pas tellement sûr de ça. Je pense qu'ils n'ont pas mis les moyens dans ça. Je pense qu'on n'a pas assez fait confiance aux policiers. Je pense qu'on n'a pas assez donné de moyens et qu'on n'a pas assez changé les recrutements dans la justice. Ce qui fait que l'insécurité prospère. Et quelqu'un comme Georges Fenech le dit à longueur de plateau, c'est un sujet qui, je crois, il le connaît assez bien. Je crois que dans l'éducation, pareil, les moyens n'ont pas été mis parce que Gabriel Attal a beau faire des moulinets avec les bras, le personnel de l'éducation nationale, depuis 20 ou 30 ans, il a changé. Donc, il n'est plus capable d'appliquer les mesures qu'on lui demande d'appliquer parce qu'ils n'ont plus la force, ils n'ont plus l'autorité, ils n'ont plus les moyens. Ce sont aujourd'hui, malheureusement, beaucoup pour beaucoup des gens qui gagnent à peine plus que le SMIC, n'ont pas de formation déjà dans leur propre matière, n'ont pas d'autorité et n'ont même pas de formation sur la laïcité qu'ils sont censés appliquer. Donc, est-ce qu'on a vraiment mis les moyens pour lutter contre cette violence ou contre cet islamisme? C'est selon l'interprétation qu'on va faire de cet événement. Moi, je ne le pense pas.
Non, mais il y a une question de moyens, je suis bien d'accord avec vous. Il est évident qu'il faut plus de moyens pour les magistrats, tout le monde le dit depuis très longtemps.
Puis changer leur recrutement, parce qu'ils sont gangrénés, je pense, par l'idéologie.
Alors, c'est précisément ce que j'allais vous dire. Alors, vous donnez plus plus de moyens aux magistrats, c'est indispensable, mais comment est-ce que vous allez lutter et faire changer l'idéologie d'une partie des syndicats qui considèrent parfois que les coupables sont des victimes? Cette idéologie-là, qui est notamment l'idéologie du syndicat de la magistrature, elle a évidemment une conséquence très directe sur ce qui se passe dans la délinquance en France et sur l'ultra-violence, naturellement.
Bien sûr. C'est les deux. C'est les deux, et je dirais la même chose des professeurs. On constate aujourd'hui, à la faveur des sondages, que les jeunes professeurs considèrent que la laïcité n'est plus censée chasser la religion de l'école, mais au contraire, lui permettre de s'émanciper au sein de l'école. C'est un problème d'idéologie, mais qui va avec un problème matériel de sous-effectifs,
eh bien, alors,
de gens qui se sont appauvris depuis quelques années. Et là où on met moins d'argent, eh ben, on dissuade les talents de venir, et c'est comme ça qu'un milieu se détruit totalement. Oui.
Je voudrais qu'on voit ensemble la communication de la préfecture de Nouvelle-Aquitaine et de Gironde, qui publie ceci sur les réseaux sociaux. Attaque au couteau à Bordeaux. Le préfet Étienne Guyot s'est immédiatement rendu sur place aux côtés de la procureure de la République, du maire et des services de police. Le secteur restera bouclé, information importante pour les Bordelais, par les forces de l'ordre. Le temps nécessaire, l'enquête judiciaire est en cours. Justement, elle consistera en quoi, du moins dans ses premières heures, Grégory Jouron, cette enquête, sachant que l'assaillant est décédé et qu'une victime est morte et l'autre, on peut imaginer, aura du mal à communiquer avant un certain temps.
Ça va être l'exploitation de tous les moyens vidéo que mes collègues pourront récupérer, de tous les témoignages, évidemment, qu'ils auront pu essayer de récolter en étant sur place, en espérant que des témoins oculaires soient restés, justement, et qu'ils puissent avoir été contactés par mes collègues. Ça va être les premiers éléments, forcément, d'enquête.
La personnalité de l'assaillant, j'imagine.
Oui.
Mais encore faudrait-il avoir son identité, déjà.
Il faudra avoir...
Je pense qu'on devrait le...
Bah, apparemment, il n'a pas de quoi justifier son identité.
Il
suffit qu'il ait une fois été interpellé pour certains délits, oui, et avec l'ADN ou l'empreinte, on peut retrouver l'identité de la personne.
C'est quand même quelqu'un qui se promenait dans la rue avec un couteau sur lui. Donc, il est quand même probable qu'il soit connu des services de police. Parce que quand on se promène dans la rue avec un couteau, généralement, c'est qu'on a déjà un parcours qui nous a conduit précisément à en arriver là. C'est-à-dire qu'on ne sort pas du jour au lendemain, comme ça, de chez soi, avec un couteau. Généralement, on a un parcours de délinquant derrière soi.
Alors, je vous précise que selon des sources proches du dossier, la victime décédée a bien 37 ans, comme vous le stipuliez, Amaury, et l'autre personne blessée à elle, 26 ans, respectivement née donc en 1987 et 1998. 37 ans et 26 ans, ce sont des jeunes gens qui passaient un bon moment.
Ils sont
sur les quais de Garonne et qui ont été fauchés par un fou.
C'est terrifiant parce qu'ils sont pour l'un morts. Il avait quel âge dites-vous? 36 ans, 35 ans.
La victime décédée, 37. 37 et la victime blessée, 26.
On leur reproche.
Et son pronostic vital n'est plus engagé, heureusement.
Voilà, simplement de boire un verre là où, semble-t-il, beaucoup de gens se détendaient à la fin du Ramadan. On a quand même un problème lourd.
Non, mais il y a un conflit de civilisation, comme l'islam
radical, qui ne supporte plus même le spectacle de deux corréligionnaires qui boivent un verre à la terrasse d'un café. Ça pose quelques problèmes.
Le printemps arrive, Grégory Jouron, les beaux jours parviennent, également notamment dans le sud-ouest. On est à Bordeaux et ils vont gagner tout le territoire. Ces grandes villes bordées par des fleuves où les jeunes aiment se réunir pour prendre du bon temps, boire un petit verre et célébrer des moments entre amis. Et bien, il faut dire à ces jeunes également de regarder un petit peu autour d'eux quand ils sont en train de profiter de ces moments. C'est là la réalité de notre pays aujourd'hui en 2024, où je suis catastrophiste et je vais un petit peu loin dans mes propos.
Je suis syndicaliste, donc j'espère toujours quelque chose de meilleur. Autrement, je crois que... malheureusement, ça serait dramatique.
Johan parlait d'un aspect définitif de cette ultra-violence tout à l'heure.
Je crois que de toute façon, on a un vrai... on a des vrais éléments et des vraies choses à mettre en place pour faire en sorte d'envoyer les bons messages. Parce que c'est certain qu'il y a une augmentation de la violence, on l'a dit, une augmentation des atteintes aux personnes, c'est une réalité. J'entendais M. Dacier tout à l'heure espérer une parole présidentielle.
Je crois que au jour d'aujourd'hui, je crois que ça devient absolument indispensable. Je n'ose risquer le conseil que j'adresse au président de la République, mais enfin,
si vous écoutez,
on ne peut pas laisser se développer la situation telle qu'on la vit tous les soirs ou tous les jours dans ce pays.
On va dire que ça commence à faire beaucoup.
Je ne vais pas faire le procès de la justice, je vais faire le procès de la politique pénale surtout. Ça fait quelques années qu'on a paupérisé une institution, c'est réel. Ça fait quelques années qu'on a des politiques pénales qui sont incohérentes, c'est réel. Ça fait quelques années qu'on se trompe de chemin, c'est factuel. Et je pense qu'à un moment donné, notre société n'est plus capable de supporter certains délits. Les atteintes aux personnes en font partie. Je pense que si on avait une parole présidentielle je ne vais pas non plus me risquer un conseil mais à un avis, à un humble avis, c'est qu'on en fasse peut-être une cause nationale de ces attaques aux personnes. Et qu'à un moment
donné, on les a vu les causes nationales, Grégory Joron.
Oui, mais que ça soit traduit par
le plan grand, Marseille en grand, les violences faites aux femmes.
Mais par quelque chose de très simple.
Je veux bien qu'on voit la vie en grand et qu'on fasse des grandes causes de tous les maux de la société, mais il y a un moment, les problèmes sont là.
Juste pour être factuel sur ce point-là, quand je dis ça, c'est que ça soit évidemment traduit par quelque chose de mise en place extrêmement rapidement. Il y a des grandes démocraties qui l'ont fait. Je vous prends un exemple du Canada qui, face à une explosion des violences et des attaques en personne avec armes, ils en ont fait des délits spécifiques. Je veux juste dire ça. C'est qu'à un moment donné, on se trompe de chemin pénal et de politique pénale depuis un petit moment. Il faut redonner des moyens à la justice, c'est une évidence. Il y a des choses qui ont été faites, mais on part de tellement loin qu'on a été tellement de retard que même ce qui est fait ne suffit pas à endiguer nos problématiques, et c'est réel. Et je crois que c'est que ce que ne supporte plus la société, nos rodéos, nos violences aux personnes, etc., etc., méritent d'être traités comme des délits spécifiques parce que notre société ne le supporte plus.
Je suis d'accord.
Régis Le Sommier.
Moi, je dirais qu'on est dans une période presque, c'est terrible parce que le terme que j'ai utilisé, mais de tempête parfaite. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez le trafic de drogue qui continue à augmenter. Mmh. On a fait des débats sur ces plateaux en expliquant que la police a moins de moyens, que les dealers sont aujourd'hui souverain dans certains quartiers. On commence à parler de Marseille comme d'une narco-ville.
Je me permets, parce qu'il y a des choses qui apparaissent à l'antenne, on a un petit problème technique et je m'excuse auprès des téléspectateurs. Voilà, tout est rentré dans l'ordre.
Donc, d'un côté, une délinquance qui explose, et de l'autre côté, une menace. Là, on voit qu'il y a visiblement un problème que j'évoquais tout à l'heure, de police des mœurs au sein de l'islam de France, avec des gens qui se permettent d'intervenir pour essayer justement de faire appliquer leur idée de l'islam. Et puis, en même temps, au moment où on parle, on a un match de foot qui est en train de se dérouler, qui est sous surveillance parce qu'il a été menacé par Daesh. Donc, on est vraiment dans une situation où la France, et je rappellerai qu'il ne me semble pas que nos voisins européens vivent des situations en ce moment aussi dramatiques que les nôtres. Alors l'Angleterre a connu beaucoup d'attaques au couteau, ça a été clair. Vous évoquiez tout à l'heure le Canada qui a pris des mesures, mais je n'entends pas parler en Allemagne, en Italie ou en Espagne d'une explosion de violence.
Mais aux États-Unis, par exemple, l'explosion des violences causées par les armes à feu, par exemple, est une réalité également.
Nous ne sommes
pas les seuls au monde dans cette situation.
En fait,
les attaques au couteau dans notre pays sont les attaques à l'arme à feu aux USA.
C'est des phénomènes d'une nature différente quand même, parce qu'aux États-Unis,
c'est juste que là-bas, c'est accessible et pas chez nous.
Alors,
les armes à feu étaient accessibles dans notre pays, je pense qu'on serait dans la même situation.
Il y a ça, mais malheureusement, il y a aussi les motifs des attaques. C'est-à-dire que chez nous, les motifs sont presque systématiquement de nature religieuse. La France, depuis 2013, a connu 50 attaques islamistes. Le deuxième pays européen qui en a connu le plus, c'est l'Allemagne, avec seulement 17.
Et la France
n'est
plus jamais menacée, nous le rappelons, évidemment.
Et l'Allemagne vient officiellement de reconnaître qu'il y avait un lien entre l'insécurité,
c'est la gauche d'ailleurs,
en Allemagne et l'immigration en Allemagne.
Et comme Gérald Darmanin et Emmanuel Macron l'ont reconnu pour la France, d'ailleurs, ils ont fait ce lien.
Oui, mais en France, on a quand même beaucoup de mal à reconnaître toujours ce fait.
Encore une fois, je ne nie pas que le rôle de les attaques, toutes les opérations de police contre la drogue sont inutiles, c'est très bien, bravo. Je ne voudrais pas que ça prenne la place d'un sujet qui, au moins, préoccupe autant les Français que c'est l'immigration.
Il est d'ailleurs paradoxal de faire le lien entre l'insécurité et une partie de l'immigration, naturellement. Partie de l'immigration. Mais il est paradoxal de faire ce lien et de constater
parce que là, je rappelle aussi, Johan, et je vous rends tout de suite la parole, que ce sont des immigrés ou enfants d'immigrés, première, deuxième, peu importe toute la génération, je ne connais pas l'identité de ces gens, mais ce sont des gens de type nord-africain qui ont été attaqués. Peut-être probablement français, nous le verrons.
Mais en tout cas,
issus de l'immigration. Donc là encore, c'est très important de montrer que une majorité des gens issus de l'immigration, quelle que soit la génération dans ce pays, sont victimes, comme Samara, d'autres immigrés qui ne respectent pas les règles. Ils sont dans un fondamentalisme terrifiant.
Mais tout le monde est d'accord sur ce constat. Il n'empêche, je poursuis mon raisonnement, je trouve, moi, paradoxal de faire un lien entre l'insécurité et une partie de l'immigration et le fait de constater que jamais il n'y a eu autant d'immigration que depuis 2017. Vous dites l'immigration, une partie de cette immigration représente un danger, et pour autant, il y a de plus en plus d'immigration. Donc vous constatez avec moi qu'il y a quand même là un paradoxe.
Les attaques au couteau, je disais Grégory Joron, qui sont en train de devenir ce que sont les attaques à l'arme à feu aux États-Unis. Ça vous semble cohérent de penser les choses de cette façon?
On a un problème avec les armes blanches, réellement. Je ne sais pas si on peut faire le parallèle. Est-ce qu'on aurait les mêmes comportements avec une arme à feu? Je n'en sais rien. Après, c'est sûr qu'un couteau... on le voit, quel que soit l'âge, malheureusement, on peut se balader avec. Et puis, encore une fois, c'est le traitement de ce qu'on fait, des gens qu'on arrête avec un couteau dans la poche, qui n'ont rien fait, qu'on peut présenter, et pour qui il ne se passe pas grand-chose. Ça part de là, déjà. Je veux dire, si on interpelle quelqu'un avec un port d'armes prohibé, ce qui arrive extrêmement souvent, malheureusement, ça aussi, on ne le prend pas en compte. Donc, on se balade avec. Et puis ensuite, et regardez les dernières affaires. À chaque fois, les personnes disent qu'elles ont peur parce qu'elles ont des problèmes. Et du coup, elles s'arment pour se protéger. Et puis finalement, elles deviennent des fois, malheureusement, des agresseurs, voire des meurtriers.
Encore un mot, Michael Sadoun, avant de retrouver Michael Dos Santos pour les téléspectateurs qui nous rejoignent et faire un point complet et factuel sur cette attaque qui a vu deux victimes, dont un décédé très malheureusement ce soir dans le centre-ville de Bordeaux. Michael, un dernier commentaire.
Non, mais évidemment, comme on est en train de parler du lien entre immigration et délinquance, on ne dit pas que c'est forcément lié intimement et de toutes les manières à l'événement qui est en train de se passer devant nos yeux, mais très visiblement, il y aurait des liens. Évidemment, l'immigration est le sujet non traité de la politique française, ce que disait Jean-Claude Dacier tout à l'heure, depuis 30 ou 40 ans. Et on voit que même dans une situation d'urgence et, je dirais, d'avalanche migratoire, puisqu'on en est à 500 000 légaux, parents qui viennent sur le sol français, le gouvernement n'a pas su réagir dans cette urgence, puisqu'on a eu 6 mois de débat au moment de la loi immigration de Gérald Darmanin, et que ça a fini avec un reniement d'Emmanuel Macron, qui avait mis des mois à convaincre sa majorité de voter une loi, qu'il a fini par renier, en expliquant que finalement, il regrettait d'avoir voté avec le Rassemblement national, que c'était des mesures trop méchantes, et qu'on allait revenir...
Qui a été retoquée par le Conseil d'État.
Qui a été retoquée en plus par le Conseil d'État, et qui a été totalement neutralisée. Donc, retour à la case départ, on a eu 6 mois de débat sur ça, avec un énervement général, pour rien.
La drogue, essaie de masquer la carence que nous avons dans le domaine de l'immigration.
Je pense que les deux vont ensemble, puisque le trafic et le carburant financier de tout ça.
22h55 quasiment. Je vais vous remercier Michael Saad.
Merci Julien.
C'est Karim Abri qui va prendre ce siège dans une poignée de secondes. Je salue les téléspectateurs qui nous rejoignent. Vous l'aurez compris, antenne chamboulée après cette attaque au couteau qui a fait deux victimes, dont une malheureusement décédée. Michael Dos Santos est avec nous. Pour tous ceux qui nous rejoignent et qui prennent connaissance de cette affaire, Michael, que sait-on ce soir à l'heure où l'on se parle?
Les faits se sont déroulés aux alentours de 19h50 dans le secteur du Miroir d'eau à Bordeaux, quartier avec une forte présence de sans-domicile fixe et de jeunes marginaux. Alors selon plusieurs syndicats de police de Gironde, un groupe de personnes est en train de consommer de l'alcool. C'est alors qu'une bagarre va éclater. Un homme armé d'un couteau va poignarder deux personnes. L'un est âgé de 37 ans, il décède. L'autre de 26 ans est blessé, mais il n'est plus en état d'urgence absolue. Seule certitude est toujours, selon les syndicats de police, ils seraient tous d'origine nord-africaine. L'assaillant, lui, va donc poursuivre sa route, croiser celle des policiers. Il va alors se montrer menaçant. Il est abattu par les forces de l'ordre depuis tout le secteur est bouclé. Du côté du parquet de Bordeaux, cette fois-ci, vous allez le voir, on se montre plus prudent. Pas d'informations sur l'identité de l'assaillant, de la victime, de la personne blessée. Pas plus d'ailleurs sur le motif de cette altercation. Seule certitude, c'est la piste de la rixe qui est donc celle qui a été retenue. L'hypothèse d'une attaque terroriste a pour le moment été écartée. La procureure de Bordeaux va s'exprimer dès demain matin et une enquête judiciaire est déjà en cours.
Merci beaucoup, cher Michael Dos Santos. Grégory Joron du syndicat Unité est avec nous. Merci également à Karima de nous avoir rejoints sur ce plateau, toujours avec Régis Le Sommier, Jean-Claude Dacier, Amaury Bucaud et Johan Usaï. Grégory Joron, je me tourne vers vous. Là encore, on le disait il y a une petite heure, mais pour les gens qui nous rejoignent, l'hypothèse de la rixe est privilégiée. Il y a beaucoup de questions. C'était il y a à peine 3 heures, donc logiquement, l'enquête est encore très floue, mais pas de qualification terroriste à l'heure où on se parle également.
Oui, et j'ai envie de dire tant mieux, puisqu'on y a tous forcément pensé étant donné les annonces des derniers jours, le match à risque avec, les relais qui ont été faits d'ailleurs par le ministre de l'Intérieur sur la menace terroriste et le dispositif qui a été mis en place autour du Parc des Princes. Donc forcément, quand c'est arrivé, on y a tous un petit peu pensé. Il semble que ce ne soit pas le cas, tant mieux. Et maintenant, j'ai envie de dire, place à l'enquête et à la communication de la procureure demain matin sur les éléments qu'elle aura à sa disposition.
Il y a dans notre pays, Grégory Joron, des individus potentiellement dangereux, très dangereux, qui errent, qui peuvent frapper un peu n'importe où, n'importe quand, que ce soit d'ailleurs une menace terroriste ou non. Combien sont-ils? Comment les surveiller? Comment anticiper? On avait Madame Diaz tout à l'heure du Rassemblement national qui fustigeait Pierre Urmic, le maire de Bordeaux. Alors oui, alors, il y a une politique qui est peut-être critiquable du point de vue de Madame Diaz dans ces villes gérées par les écolos, notamment sur les armes à feu pour les policiers municipaux qui n'en sont pas munis dans cette ville, je le rappelle. Mais il y a un moment, il y a une forme de fatalité et quelles que soient les personnes qui sont en place, il y a un risque zéro qui n'existe pas.
Qui n'existera jamais, jamais plus en tout cas, mais de toute façon, comme dans toute société. Maintenant, on a une violence qui monte, c'est réel, on l'a déjà dit, factuellement chiffré par le service de statistiques du ministère de l'Intérieur, d'ailleurs, qui rappelle que les atteintes aux personnes ont fortement augmenté, ce qui veut dire qu'il faut qu'on y mette tous les moyens. La police nationale travaille beaucoup, vous le savez. Je pense que les mairies ont aussi aujourd'hui la responsabilité de mettre en place de la vidéosurveillance parce que ça peut nous aider, de mettre en place des polices municipales parce que c'est le continuum de sécurité et la police de proximité ou de voie publique qu'on peut faire ne peut être que renforcée par justement la police municipale. Enfin, tout
en fait,
ça
le seul moyen que tout le monde soit en sécurité tout le temps, c'est qu'il y a un policier à chaque coin de rue, mais ça n'arrivera jamais.
Ça, c'est juste pas possible.
En l'occurrence, sur cette promenade, ce lieu du miroir d'eau qui est très fréquenté par les Bordelais, notamment avec l'arrivée des beaux jours, c'est sûr que si vous avez des policiers en permanence sur les bords de quai qui regardent les gens qui sont en train de boire des verres ou de s'amuser entre eux, d'un côté, on se sent en sécurité, mais de l'autre, on se sent aussi épié. Ça rendrait le climat complètement malsain, le tout sécuritaire également. Donc, il faut trouver cette espèce de combinaison où on peut assurer une sécurité et en même temps laisser les gens, en tout cas, le sentiment de liberté qui doit être le nôtre dans ce pays qu'est la France. Et c'est forcément une équation compliquée à résoudre. On s'en rend compte chaque jour. Régis, oui.
Moi, je voulais rajouter une chose, c'est que ce que démontre un petit peu ce... et encore, tout en se basant sur les témoignages de nos confrères de Sud-Ouest sur les motifs, c'est qu'en fait, il y a, par rapport à il y a quelques années, une radicalité qui infuse dans notre société. C'est-à-dire que au contraire de régresser, c'est-à-dire qu'on se dit il faut lutter au niveau de l'éducation, il faut lutter, il faut aussi que au niveau de la religion musulmane il y ait cette prise en compte et cette idée que on doit vivre ensemble. Eh bien, en réalité, on remarque qu'il y a de plus en plus d'atteintes à la laïcité, ça n'en parlons même pas, mais même des polices du comportement, j'ai qualifié ça de police des mœurs, on a l'impression que à une époque, les djihadistes existaient et ils ont frappé sur notre sol. Mais si vous voulez, là, c'est tout un tas de petites choses. C'est un climat qui est en train de se mettre en place. Et ce climat est extrêmement dangereux et il est nouveau. Je précise que c'est quelque chose qu'on ne voyait pas il y a quelques années, même si il pouvait y avoir les gens de Daesh. Daesh, c'est la fin du califat, c'est 2017. Nous sommes en 2024. Et quelque part, à l'époque, déjà, les gens de Daesh avaient dit « mais il faut qu'on continuer à attaquer l'Europe, il qualifiait l'Europe de ventre mou, il y avait eu ces appels justement à prendre n'importe quel instrument pour frapper les mécréants, et on se rend compte qu'aujourd'hui, mais il y a des gens qui font ça, qui se baladent dans la rue avec des couteaux, avec une lame apparemment assez imposante, et qui font régner leur vision de l'islam. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement déroutant, parce que ça peut arriver n'importe quand. On évoquait Samara, on a évoqué ces collégiennes, cette collégienne dans le Bas-Rhin, inquiétée parce que, selon ses camarades de classe, certaines de ses camarades de classe, elles ne respectaient pas le ramadan, eh bien, ce climat-là, il me paraît extrêmement insidieux et extrêmement dangereux. Et ça, c'est un phénomène qui me paraît nouveau.
Là encore, je voudrais préciser à nos téléspectateurs, avant de vous entendre, Karima, que nous vous proposons cette vidéo qui nous montre au cœur de l'écran l'assaillant que nous avons bien sûr choisi de flouter pour des raisons évidentes. Vidéo prise au moment où cet homme larde de coups de couteau l'une de ses victimes. Nous avons choisi également, je le précise à ceux qui nous suivent, de ne pas mettre le son parce qu'on peut entendre, c'est une vidéo effroyable qui témoigne de l'horreur également de ce qui s'est passé, on peut entendre la victime qui crie à son bourreau « arrête, arrête » au moment où il le frappe. Des images détestables et malheureusement une réalité dans ce pays en 2024. Karima Brik.
On parle de, il y a la piste de la RICS, peut-être.
Oui, c'est ce qui est privilégié.
On ne sait pas encore. C'est ça. Il y a rien, finalement, qui est complètement écarté. On verra pour la suite. Moi, je n'appelle pas ça simplement le mot RICS. Pour moi, c'est une fureur, si vous voulez, une sorte de furie meurtrière. Et on voit vraiment cette banalisation du passage à l'acte en ce moment. Pour toutes sortes de motifs. On voit, par exemple, dans l'histoire de Samara, ça a été, elle vivait un peu à l'occidental, elle se teignait les cheveux, tout ça, battue, vraiment avec une hémorragie cérébrale. Donc, dans une situation comme ça, il y a des gens qui se permettent pour différents motifs parce qu'eux sentent qu'ils ont raison, parce qu'eux sentent qu'ils peuvent faire des corrections à gauche et à droite. Ça a été, en tout cas, on verra, mais dans le cas de Samara, le témoignage, je pense, de sa mère était assez éloquent. Ce soir, il y a une personne qui a perdu la vie. Il y a une personne qui a perdu la vie, l'autre qui est maintenant...
Sur une table d'opération,
voilà, on se parle. Qui est à l'hôpital. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais il y a quelqu'un, encore une fois, qui a fait ce fameux passage à l'acte. Et quand on regarde les chiffres, effectivement, de l'insécurité, les chiffres des crimes, des délits qui sont en augmentation, notamment dans le cas de Bordeaux, les chiffres du ministère de l'Intérieur entre 2016 et 2019, qui sont particulièrement éloquents, augmentation de 25 % de ces crimes et délits. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que finalement, il y a certains individus, pour différentes raisons, qui décident qu'eux peuvent finalement avoir autorité sur le corps, sur la vie d'autres personnes. Alors, je trouve ça extrêmement troublant. On a vu aussi toute cette question de posséder des couteaux, d'utiliser des couteaux. On l'a vu dans le cas de Crépol, la mort de Thomas. On a vu aussi ce jeune de 15 ans qui a été tué aussi par arme blanche. Ça s'est passé à Romans-sur-Isère hier, donc mardi, en fait. C'est ça.
Alors, mardi soir,
exactement. Donc, cette multiplication et peut-être, en terminant là-dessus, ce qui va être important de savoir sur la motivation, est-ce qu'effectivement l'assaillant connaissait les individus? Si oui, quel est exactement ce lien? S'il ne les connaît pas, comment se fait-il qu'il s'est rendu et qu'il a passé à l'acte?
Le fait d'avoir... La procureure qui communiquera demain, a-t-elle dit, pas de version officielle sur le mobile avant demain et cette
conférence
est très attendue de la procureure de Bordeaux.
Donc, l'identité de l'assaillant, l'identité des victimes, si jamais il y a un lien ou non entre ces individus et bien sûr l'importance des témoignages, des témoins autour, peut-être des caméras de surveillance pour savoir ce qui s'est dit. Justement, peut-être qu'on va en savoir un peu plus sur le mobile et peut-être aussi pour les policiers sur la question de l'enquête, le fait qu'il y a eu un tir d'arme à feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il se sentait menacé? Est-ce qu'il sentait que l'assaillant...
Semble-t-il en fuite?
Oui, c'est ça. Est-ce qu'il se disait peut-être que l'assaillant pouvait faire d'autres victimes? Alors tout ça va être des questions qui vont être importantes.
Je rappelle que pour l'instant, les informations dont nous disposons, c'est du recoupement de sources, puisque l'enquête est en cours et qu'il n'y a pas de communication officielle. Nos confrères de Sud-Ouest, évidemment particulièrement informés dans cette ville de Gironde, nous disent que selon leurs sources, donc l'agresseur vêtu d'une djellaba aurait reproché, et c'est une explication pour le moment de l'origine de cette attaque, aurait reproché à un groupe d'origine nord-africaine de boire un coup, je cite, entre guillemets, donc de consommer de l'alcool. Avant de continuer de réagir, je voudrais rappeler aux téléspectateurs également les réactions politiques. D'abord, celle du maire de Bordeaux. Attaque au couteau à Bordeaux. Je me suis immédiatement rendu sur place pour recueillir les informations auprès de la procureure de la République et le préfet. L'enquête judiciaire est en cours. C'est très laconique, très factuel et pas forcément adressé aux victimes, Johan. Moi, je vous avoue que je suis assez surpris par ce tweet de Pierre Urmic, peut-être écrit... À la va-vite.
Il n'y a pas de mots pour les victimes, c'est vrai, on peut le regretter. Il n'y a pas de mots pour les policiers non plus, qui ont sans doute contribué à sauver des vies. sans doute, les policiers, par leur courage, ont contribué à ce qu'il n'y ait pas davantage de victimes. Pierre Urmic n'en dit pas un mot. Sandrine Rousseau n'en a pas dit un mot non plus dans le tweet qu'elle a publié très rapidement.
Qui arrive tout de suite, d'ailleurs. Regardez.
Donc,
toutes mes condoléances et mes pensées aux proches des victimes de l'attaque au couteau de Bordeaux. Donc, là encore, c'est très laconique.
Il est vrai que, contrairement à la droite ce soir qui a un mot, tous les tweets émanant de la droite ont un mot pour les policiers qui ont contribué à sauver des vies. Et l'extrême gauche, elle, n'en dit rien.
C'est Jordan Bardella, merci aux policiers de Bordeaux qui évitaient un carnage en abattant un assaillant au couteau. Il y a désormais de plus en plus dans les rues de France des individus qui veulent l'application de la charia. Ils sont prêts à imposer par la violence, urgence d'un sursaut. Et puis Valérie Boyer, sénatrice LR également, qui a tweeté. S'il apparaît, je vous le lirai. Sinon, on va attendre. On peut l'avoir, les amis ? Je ne sais pas si ça... Voilà. Depuis des années, je demande au gouvernement des informations détaillées sur les attaques au couteau. 20 aujourd'hui encore, semblerait que la police des mœurs frappe encore à Bordeaux. Pour Valérie Boyer, Jean-Claude et Amaury, je viens vers vous. J'ai envie de dire, dis-moi ce que tu tweets par rapport à cette attaque et je te dirai quel est ton bord politique.
Il y a un peu de ça, évidemment. On est à quelques mois des élections européennes. Mais
c'est terrible, quand même.
Le maire de Bordeaux, c'est important. On sait au moins une chose, il s'est rendu sur place.
Amaury.
Non, mais effectivement, vous l'avez dit, les élections européennes sont à quelques semaines. Et en fait, ce qui est quand même embêtant, c'est que si cette piste identitaire ou religieuse se confirme, je pense que ça peut avoir un impact très important.
Surtout dans la séquence actuelle.
Sur les élections européennes. Et surtout, on voit très bien ce qui va se passer par la suite, c'est que la gauche va être très embarrassée par cette affaire. Puisqu'elle ne veut pas voir ce problème du manque d'intégration, de la radicalisation qui est dans le pays depuis longtemps. Et en revanche, la droite, qui, elle, a pris ce sujet à bras-le-corps depuis quand même plusieurs années, va a priori, j'allais dire, profiter électoralement de ce drame.
Une enquête judiciaire est en cours, Grégory Joron, on le disait. Ça veut dire qu'une enquête est également en cours sur le collègue, sur votre collègue qui a...
J'imagine. Oui,
c'est automatique, de toute façon.
C'est automatique.
Automatique, oui, bien sûr. Dans le cas de l'usage des armes avec un blessé ou.
C'est-à-dire que cet homme est à la fois un témoin, un acteur et potentiellement un mis en cause, tout à la fois dans une affaire
oui,
comme celle-ci.
Oui, oui. Enfin, il y a encore une fois l'enquête qui va être menée sûrement par la. J'imagine la Sûreté départementale ou la police judiciaire de Bordeaux sur l'assaillant et les victimes. Et ensuite, forcément, une enquête de l'IGPN en général saisie par le parquet pour faire la lumière sur l'usage de l'arme de mes collègues. Était-il menacé ? L'a-t-il utilisé dans le cadre du périple meurtrier, puisque c'est un cadre d'usage des armes du Code de sécurité intérieure ? C'est aussi possible. Ça, c'est justement la procureure qui pourra peut-être en dire plus demain.
Et en fait, il y a même trois enquêtes. Enfin, en général, vous me dites si je me trompe, mais en fait, il y aura l'enquête pour l'agression au départ, enfin, l'attaque au couteau, une enquête judiciaire qui va viser le policier et une enquête administrative qui va également viser le policier, puisqu'à chaque fois, quand un policier tire, l'ouverture de deux enquêtes se fait automatiquement, à la fois sur le plan administratif, c'est-à-dire d'un point de vue interne dans la police, pour savoir s'il a effectué des gestes techniques au regard de la déontologie policière, et en même temps, une enquête judiciaire qui est là plus au niveau du code pénal, pour savoir s'il a agi correctement.
Il y a des points communs, évidemment, quand on voit les premières informations et les premiers recoupements de sources pour expliquer ce qui s'est passé ce soir. Il y a des schémas mentaux qui se font logiquement dans nos esprits, des points communs que l'on trouve sur une séquence de quelques jours, de quelques semaines à peine. Hein, Viry-Châtillon, l'affaire de Samara, le point commun peut-être aussi avec ce que l'on comprend là des informations de Sud-Ouest qui semblent assez sérieuses. Et ben, le point commun de tout ça, c'est une question contextuelle, culturelle, oui. Un autre pouvoir qui semble s'exercer parfois.
Oui, parce qu'on est, en fait, le moment où se produit cette altercation et les faits rapportés par Sud-Ouest, produit presque exactement au moment de la rupture du jeûne du Ramadan qui a lieu autour de 20h. Et donc, comme c'est la fin du Ramadan, il est possible que cette personne ait voulu faire du zèle. Enfin, on peut imaginer qu'il a, il a vu deux personnes qu'il estime être des musulmans consommer de l'alcool et que pour lui, c'est inacceptable. Et donc, voilà, c'est ce qui découle de cette... Alors, on n'a pas tous les éléments, bien sûr. Demain, il y aura la procureure qui va nous expliquer. Mais en tout cas, on est avec un individu qui déambule en djellaba avec une arme. Il y a tous les faits d'une sorte d'application décidée par lui, d'une police des mœurs, en plein centre-ville d'une des plus grandes villes de France. Voilà.
Et
c'est là où il y a en effet cet aspect. Il y a la question de l'usage du couteau qu'on voit se répéter dans tout un tas de configurations, que ce soit dans des profils plus djihadistes, comme c'était arrivé à Paris au pont de Bir Hakeim, où deux individus avaient été tués par arme blanche, et qu'on voit qu'il y a une multiplication de ce type d'armes. C'est une arme facile à trouver. Les couteaux, on ne peut pas tous les interdire. Et quand on a des motivations d'application d'un islam rigoriste ou djihadiste, eh bien, c'est le truc le plus facile et le moins détectable. Si on veut passer à l'acte, utiliser un couteau, tuer des mécréants, personne ne peut vous détecter en avance. La plupart des attentats qui ont été commis en France ont laissé des traces, c'est-à-dire que les individus ont été certains services de renseignement aujourd'hui en France sont extrêmement efficaces pour détecter ces individus qui sont suspects, qui sont observés, etc., et qui laissent toujours des traces sur les réseaux. Quand vous êtes tout seul et que vous décidez de passer à l'acte, personne ne peut vous en empêcher et personne ne peut vous prévenir justement votre passage à l'acte.
Grégory Joron, il serait bien vu que le ministre de l'Intérieur peut-être se rende sur place dans les prochaines heures et envoie là encore un message fort à la population.
On peut de toute façon pas critiquer le l'hyperactivité du ministre de l'Intérieur sur ses déplacements, parce qu'il en fait quand même, je crois, énormément. On le voit tous les jours sur le terrain ou presque. Je ne sais pas s'il va aller là-bas.
Mais ce que l'on voit tous les jours sur le terrain ou presque, ce sont des crimes atroces commis dans une violence extrême par des individus de plus en plus jeunes. Alors en l'occurrence, on ne connaît pas l'âge de celui-ci, mais les séquences des derniers jours abondent dans ce sens.
Je ne suis pas le porte-parole du ministre, mais imaginez justement que s'il doit se rendre à chaque endroit où malheureusement on voit un crime atroce, il a pas fini de courir les TGV ou les avions. Je suis pas sûr que ce soit exactement ce qu'on attend du ministre. Évidemment, s'il y avait un fait terroriste, ça prendrait tout de suite une autre dimension, ce qui semble
pour l'instant
pas
écarté,
le cas.
Je le rappelle aux
exactement. Et c'est important de le dire. Donc non, je suis pas certain que le ministre se déplace pour l'instant.
Et pour préciser ce qu'on disait tout à l'heure sur l'utilisation de l'arme de service du policier, je précise que de sources policières, là encore, l'assaillant a eu une attitude menaçante et a dû être neutralisé donc par les représentants de l'ordre public. La source, c'est pas des sources policières, c'est le parquet de Bordeaux qui communique cette information très précisément. Merci à Adrien Fontenot dans mon oreillette. Jean-Claude, cette montée de la violence, elle est pour certains, pour beaucoup même, je dirais, proportionnelle à l'effondrement de l'autorité. Quelle réponse on apporte à ce que le président Macron lui-même a qualifié de décivilisation ?
C'est une des questions, à mon avis, essentielles pour les années qui viennent. C'est la faillite. C'est la faiblesse, la disparition du principe d'autorité, avec une politique pénale qui est bien souvent, pas toujours, mais bien souvent peu adaptée, avec des moyens défaillants, en outre. Des moyens défaillants, c'est-à-dire à l'absence de prison pour tous et tout le monde, l'absence de prison adaptée au type de délinquance auxquelles nous avons affaire aujourd'hui. Bref, on a l'impression que l'État ne sait plus, et on vit en plus, en outre, depuis quelques jours, une crise politique importante qui va déboucher, je pense, après les européennes. Mais ce n'est pas rien, enfin, ce qui est en train de se passer.
Mais est-ce qu'on ne paye pas des décennies de lâcheté également pour avoir laissé le pays se transformer de cette façon ?
Sans aucun doute, ça
n'est pas arrivé. On peut taper sur le chef de l'État actuel, mais il y a un moment, ça n'a pas 7 ans, cette
situation.
Moi,
encore une fois, on est tout à fait d'accord. Il est bien évident que ça fait 20, 30 ou 40 ans qu'on a laissé, en regardant en l'air, ce qui était en train de se passer. L'immigration en France est hors de contrôle. L'État français n'a pas su développer les moyens et une magistrature... je dirais suffisante pour régler des problèmes d'aujourd'hui, etc., etc. Vous voulez que j'y ajoute l'école, vous voulez que j'y ajoute la police, pardon, il vient d'avoir aussi quelques problèmes de moyens et d'effectifs, vous voulez que j'y ajoute la santé. C'est l'État français qui est en train, sous nos yeux, de connaître les pires difficultés avec une crise politique qui va peut-être survenir, je pense, après les européennes, car il n'est pas possible que dure encore durablement une situation où le président de la République se moque de son ministre de l'économie en essayant de lui faire porter le chapeau, j'en passe, et des meilleurs. Ça va très mal dans ce pays, chers camarades, vous le savez. Ça va très mal, et il n'y a pas seulement l'aspect, je dirais, d'une immigration hors de contrôle qui fait que nous assistons trop souvent à ce genre de faits de société qui sont d'une extrême gravité. Les Français.
Alors, un crime qui intervient le jour où les députés européens ont voté le pacte asile et immigration.
Un mot, regardez, ce n'est pas un hasard si M. Bardella est à plus de 30 points, 31, 32.
Ouais, c'est 30, selon les sondages.
Jours. Et je pense que ce qui s'est passé ce soir à Bordeaux peut-être encore lui permettre de prendre un demi-point de mieux demain ou après-demain. Et on a voté, vous l'avez dit aujourd'hui, à Strasbourg, un texte, pas tous, hein, tout le monde n'a pas voté, mais on ne va pas faire d'analyse politique, d'une situation qui est censée améliorer les filtrages des migrants à l'entrée et d'accélérer les retours des 10 migrants qui ne seraient pas en règle ou qui n'acceptent... Bon, dans leur pays d'origine ou autre, on ne sait pas trop.
C'est ce qu'on appelle l'homme pour rien.
On négocie ce texte depuis 5 ans. Et tenez-vous bien, il va falloir au moins encore 2 ans avant de mettre les détails techniques
oui, c'est pour
au point.
2026,
mais
ouais.
On se fout du monde, on se moque
c'est
de
pas
qui,
moi qui le dis.
Et on va s'étonner qu'un électeur sur deux n'aille pas voter dans 3 semaines. Enfin, écoutez.
Vous parliez de camarades, cher Jean-Claude, un camarade de Grégory Joron est avec nous, monsieur Cyril Janin. Bonsoir, vous êtes secrétaire national délégué de la zone sud-ouest du syndicat Unité. Merci de nous répondre. Question très simple.
Bonsoir, merci.
Vous qui êtes donc dans ce secteur de Bordeaux et de la Gironde, que savez-vous peut-être plus précisément de ce qui s'est passé ce soir, de l'auteur, des victimes d'abord, peut-être, évidemment?
Alors, on essaie, hein, du moins les enquêteurs essaient de comprendre un petit peu ce qui s'est passé et notamment si le lien que l'on peut faire entre l'auteur et les deux victimes. Bon, ce sont des jeunes hommes. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir si l'auteur connaissait, l'assaillant connaissait ses victimes au moment des faits ou c'est parti d'une simple altercation verbale et qui s'est terminée par l'agression et dont on connaît l'issue, hein, une victime qui est décédée et une deuxième qui est en urgence absolue et transportée aux urgences.
Nos confrères de Sud-Ouest, à savoir que l'homme donc serait l'agresseur, pardon, était selon nos confrères de Sud-Ouest vêtu d'une djellaba, aurait reproché à un groupe d'origine nord-africaine de, je cite, boire un coup, donc en l'occurrence boire de l'alcool.
Alors, le motif, je ne peux pas vous le confirmer. Hein, donc, si la raison pour laquelle cet assaillant a agressé ses victimes, c'était le fait que les deux victimes consommaient de l'alcool sur la voie publique. Ensuite, oui, sur la vidéo, on peut apercevoir que l'assaillant portait probablement une djellaba blanche.
Est-ce que vous pouvez nous décrire ce secteur de la ville de Bordeaux, ce miroir d'eau, donc comme il est appelé, à quel point il est fréquenté, à quel point il est sûr ou moins sûr peut-être une fois que le soleil se couche? Que pourriez-vous nous dire de cet endroit où le drame a eu lieu ce soir?
Non, c'est, on ne peut pas dire que cet endroit soit mal fréquenté, tout en sachant qu'il faisait jour, il faisait toujours jour au moment des faits, 19h50, il faisait même doux, je rappelle, on est un mercredi, il y avait probablement peut-être encore des adolescents ou même peut-être des enfants avec leurs parents. C'est très très fréquenté ce miroir d'eau, hein. C'est un site touristique. Et donc, vous avez vu, il y a des vidéos qui circulent, donc probablement des passants, des sportifs, des joggeurs qui sont là, et une piste cyclable aussi qui passe devant le miroir d'eau et le long de la chaussée et qui se dirige vers le pont de Pierre d'un côté ou le pont d'Aquitaine de l'autre. Donc, c'est un site qui est très fréquenté, qui est très apprécié des Bordelais, où beaucoup de Bordelais viennent se détendre et même qui laissent leurs enfants se tremper les pieds dans le miroir d'eau.
On nous dit, et nos correspondants à Bordeaux nous disent que tout de même, en fin de journée, début de soirée et la nuit, il y a une population qui change un petit peu dans cet endroit du miroir d'eau, plus fréquenté par des marginaux, des gens qui potentiellement peuvent devenir violents de temps en temps.
Oui, oui, oui. Alors, la population change lorsque la nuit tombe et pendant la nuit où beaucoup de personnes consomment de l'alcool près de ce miroir d'eau. Et d'ailleurs, le matin, les agents de la ville de Bordeaux passent pour nettoyer tous les jours
les déchets,
les boissons, toutes les bouteilles vides, les déchets qui ont pu être laissés. Et c'est vrai qu'il arrive qu'il y ait des agressions, mais bon, nous sommes à Bordeaux, hein, donc il y a beaucoup de monde, il arrive qu'il y ait des agressions sur ce site. Et puis bon, on a des bars à proximité, donc des gens qui peuvent être éméchés.
On est vraiment dans l'hypercentre de Bordeaux, hein, vous me le confirmez?
Oui, tout à fait. Oui. Alors, c'est quand même le bord de Garonne, hein, hypercentre, on ne peut pas dire que... Mais c'est le centre de Bordeaux.
D'accord.
C'est le centre de Bordeaux. Et comme je vous dis, c'est très apprécié, hein, donc c'est pas... c'est un endroit où on peut se sentir en sécurité en pleine journée, et je vous dis, et beaucoup de personnes viennent, des familles viennent avec leurs enfants se détendre, et notamment le mercredi comme aujourd'hui.
Est-ce que le fait qu'il y avait une voiture, un équipage de police proche de la scène de cette attaque est fortuit, ou il y a des rondes très régulières autour de cet endroit, de ce miroir d'eau, dans la journée ou dans la soirée? Alors, des rondes de police régulières? C'est un endroit qui reste surveillé?
Oui, alors nous sommes près de la Garonne. C'est un endroit qui est particulièrement surveillé parce que très fréquenté, hein, il y a du monde. Nous avons le tramway qui passe, une piste cyclable. Il y a des joggeurs, il y a beaucoup de commerces aux alentours. Et puis je vous rappelle que depuis l'attentat de Moscou, nous avons élevé à son maximum notre vigilance Vigipirate.
Ça se traduit dans les patrouilles, notamment autour de cet endroit?
Ah, bien sûr. Bien sûr, ça se traduit dans les patrouilles et particulièrement dans les zones.
Des patrouilles, mais pardon, hein, mais je pose un peu les questions en rafale, je suis désolé, mais des patrouilles, mais pas de policiers fixes sur place, jamais?
Non, pas de policiers fixes. Non, parce que la ville de Bordeaux, quand même, est assez grande, et il y a plusieurs sites touristiques. C'est un secteur. Alors, nous avons des patrouilles qui sont définies sur des secteurs, et on a pu voir que là, il y a eu une belle réactivité. Et d'ailleurs, je tiens à saluer la réactivité de ces effectifs, de ces policiers, nos collègues de la CDI, qui ont pu intervenir en quelques minutes, hein, je crois moins de 3 minutes. Et c'est peut-être ce qui a permis d'éviter qu'il y ait d'autres victimes.
Un dernier mot avant de vous libérer, Monsieur Jeannin. Est-ce que vous diriez, d'une manière un peu plus générale, là, pour le coup, que Bordeaux est une ville sûre?
On a vu que la sécurité à Bordeaux s'est quand même dégradée, que ce soit sur les attaques aux biens ou les attaques aux personnes. Il n'empêche que on a eu, il y a à peu près 2 ou 3 ans, une série d'attaques, d'agressions au couteau. Alors, on n'était pas dans le même modus operandi. Bien souvent, c'était des attaques, une agression, hein, un auteur qui agressait une victime pour peut-être lui dérober son portefeuille. Les policiers sont parvenus à mettre fin à ces agissements, avec conjointement avec l'action de la justice, hein, qui a été beaucoup plus sévère sur tous les individus qui étaient trouvés porteurs d'armes blanches. Donc on avait pu voir ces multiples agressions au couteau qui ont existé pendant 2 ou 3 ans, ralentir. Donc avec une baisse des atteintes aux personnes, je peux pas vous dire qu'on a des attaques comme ça régulièrement, parce que c'est heureusement ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu une attaque de ce type à Bordeaux, mais
merci beaucoup.
Les policiers sont de plus en plus vigilants parce que Bordeaux fait partie des villes où la violence grandit.
Cyril Janin, secrétaire national délégué de la zone sud-ouest, unité, anciennement unité SGP Police, je le rappelle pour nos téléspectateurs. Merci d'être intervenu. Un commentaire peut-être, Grégory, à ce que vous venez d'entendre ?
Mais je crois que Bordeaux n'échappe pas malheureusement à la réalité de l'ensemble du territoire. Encore une fois, ça reste une grande ville avec, on l'a déjà tous dit plusieurs fois, ces faits d'atteinte aux personnes qui augmentent chaque année, qui sont d'ailleurs communiqués. Hein. Les chiffres sont assez précis. Hein. 2 clics, vous allez sur le service statistique du ministère de l'Intérieur et vous voyez que les atteintes aux personnes sont passés de 250 000 à 350 000 en quelques années de faits constatés. Donc Bordeaux, comme ailleurs.
Est-ce qu'il y a une blessure encore dans ce pays
En Corse.
Ouais.
Oui.
La Corse est encore un peu
en métropole. Est-ce qu'il y a encore des villes sûres en métropole?
Il y a des villes où encore, malgré tout, les choses sont plutôt tenues. Enfin, je prends des grandes villes qui ne sont pas de la dimension de Bordeaux, mais peut-être un peu moins grandes.
Bordeaux, c'est donc la 5e ville de France. Oui, mais je demanderai à la Gérégie de vérifier, mais je pense qu'on est à 300-350 000 habitants.
Certaines villes de l'Ouest ou du Sud-Ouest, où globalement, sur des après-midi en semaine, des équipages de police secours ne traitent pas d'agression. Heureusement, il y en a encore, oui, il faut le dire.
Enfin, il y a des noms de villes qu'on n'entendait pas, hein. Oui, Romans-sur-Isère, Grenoble, Nantes, Rennes.
Mais même Bordeaux. Bordeaux, il y a quelques années.
Mais Bordeaux, c'est la ville du bon vivre. Bordeaux, c'est une ville magnifique.
Qui était cette ville magnifique, c'est quand même substantiellement dégradé. Moi, je trouve le policier qu'on a interviewé
très prudent. Une ville qui a été complètement rénovée ces 20-30 dernières années aussi.
Vous avez des quartiers entiers, oui. Celui de la Grosse Cloche. Vous avez le quartier de Saint-Paul qui est déjà connu pour ses trafics de drogue depuis. Mais il y a des quartiers aux mains des dealers à Bordeaux maintenant. Je ne parle pas de Nantes, je ne parle pas de Rennes, considérablement dégradé. Et Bordeaux, comme vous le dites, avait une très bonne réputation jusqu'à il y a 5-10 ans. Mmh. Et aujourd'hui, il y a quand même eu une accélération d'une dégradation des conditions de vie dans cette ville. Quoi.
Ce témoignage, avant de vous entendre, Karima, est de refaire un point sur les faits et ce que l'on sait à cette heure. Un témoignage recueilli par nos amis d'Europe 1, cette étudiante donc, qui a assisté à la scène.
9h30, on est en train de discuter, et je dis à mon ami, tiens, il y a un monsieur qui se fait plaquer violemment au sol sur la droite. Bon, rien de particulier, nous on en rigole, on se dit, bon bah il y a encore des gens qui sont en train de se battre, voilà. Et puis quelques minutes après, mon ami voit quelqu'un tomber dans les bras de quelqu'un d'autre, on se dit, bon bah il est peut-être tombé à vélo, il a fait une chute, il a fait un arrêt cardiaque. Très rapidement, il y a un mouvement de foule qui s'est créé autour, avec notamment une personne qui avait l'air très paniquée, qui courait partout, quelqu'un qui appelait les pompiers. On s'est demandé si on y allait ou pas plusieurs fois, parce qu'on n'avait pas l'impression que quelqu'un faisait un massage cardiaque, que quelqu'un mettait en PLS, donc on a hésité, finalement on n'a pas bougé. Puis après les pompiers sont arrivés, ils ont commencé à masser malheureusement, et puis après on a vu le drap blanc qui a été sorti, les voitures de police qui sont arrivées dans un certain nombre.
Voilà pour ce premier témoignage recueilli par nos confrères d'Europe 1. 23h30 pile si vous nous rejoignez. Michael Dos Santos, on rappelle donc un homme a poignardé ce soir au moins 2 personnes sur les quais de Bordeaux, dont une mortellement. Que sait-on à 23h30?
Les faits sont déroulés aux alentours de 19h50 dans le secteur du Miroir d'eau à Bordeaux. C'est un quartier avec une forte présence de sans-domicile fixe et de jeunes marginaux. Alors selon plusieurs syndicats de police de Gironde, un groupe de personnes est en train de consommer de l'alcool. C'est alors qu'une bagarre va éclater. Un homme armé d'un couteau va poignarder 2 personnes. L'un est âgé de 37 ans, il décède. L'autre de 26 ans est blessé, mais son état n'est plus en urgence absolue. Tous, en tout cas, seraient d'origine nord-africaine. L'assaillant, lui, va poursuivre sa route, va croiser celle des policiers. C'est alors qu'il va se montrer menaçant. Il va être abattu immédiatement par les forces de l'ordre. Depuis, tout le secteur où se sont déroulés les faits reste bouclé. Du côté du parquet de Bordeaux, cette fois-ci, on se montre un peu plus prudent. Pas d'informations sur l'assaillant, hormis qu'effectivement, il s'est montré menaçant envers les policiers. Rien sur l'identité de la victime, de la personne blessée, ni sur le motif de cette attaque au couteau. Seule certitude pour le moment, la piste de la rixe est celle qui a été retenue. L'hypothèse d'une attaque terroriste a été d'ores et déjà écartée. La procureure de Bordeaux va s'exprimer demain et une enquête judiciaire est déjà en cours.
Merci beaucoup, Michael Dos Santos, pour ces précisions. Amaury Bucco également, pour les questions de police-justice, est avec nous. Vous vouliez apporter un développement? Ah non, je croyais que vous m'aviez fait signe, pardon, pour apporter quelque chose. Karima, qui est avec nous également, Karima Brick. C'est vrai qu'on a l'impression, parfois, avec ces informations qui nous parviennent notamment de nos confrères de Sud-Ouest, cet homme vêtu d'une djellaba qui aurait reproché à deux personnes de type nord-africain de boire de l'alcool. Sentiment dans cette séquence actuelle des dernières semaines qu'une société parallèle fait la loi à la place de l'État dans certains contextes et dans certaines zones géographiques.
Oui, tout à fait, pour toutes sortes de raisons. Et on voit des choses absolument horribles et au fil des jours, des semaines. Moi, c'est toujours le contraste, vous savez, de l'extérieur. La France, ça fait rêver. C'est le pays de l'art de vivre. On rêve à la France pour toutes sortes de choses. Et cette France, bien sûr, elle existe, mais malheureusement, les Français sont...
Sur Netflix,
sont...
sur les plateformes, elle existe, cette France, pour l'instant.
Emily in Paris. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que les Français, malheureusement, au quotidien, sont aussi confrontés maintenant à cette violence de toutes parts. Donc, en ce moment, on nous parle beaucoup de la menace terroriste. Ensuite, on voit une certaine délinquance chez des jeunes qui fait vraiment beaucoup de victimes, en fait, de plus en plus. Donc, c'est plus un fait comme ça qui est isolé. C'est quelque chose qu'on voit quand même fréquemment. Et c'est vrai qu'il y a des individus qui réussissent à s'extirper ou, en fait, qui veulent s'extirper de cet état de droit, de ces lois, finalement, républicaines, pour faire un peu ce qu'ils veulent. On verra, bien sûr, il y a une enquête qui est en cours. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les motivations, effectivement, peuvent être multiples. Dans certains cas, on va parler de personnes qui sont déséquilibrées. Dans d'autres cas, des motifs...
On a tendance à souvent, dès que le motif terroriste n'est... Enfin, quand le motif terroriste n'est pas encore pris en compte, l'alibi psychiatrique est tout de suite... le déséquilibre, c'est le...
Mais ce que je veux dire, c'est que cette violence-là, elle est multiple.
On psychiatrise.
Ensuite, on va psychiatriser, il y a la menace djihadiste, il y a des motifs culturels, il peut y avoir beaucoup de choses. Et je trouve que ça fait quand même beaucoup pour les Français en ce moment. On parlait du djihadisme d'atmosphère parfois. Et bien maintenant, on est dans cette insécurité d'atmosphère, malheureusement.
Si les informations de nos confrères se confirment, on est exactement dans cette qualification de djihadisme d'atmosphère. Il y a aussi ces questions, évidemment, Grégory Joron, qui plane au-dessus de nos têtes. Bien sûr que quand on voit les premières dépêches qui arrivent et qui nous parlent d'une attaque au couteau dans le contexte de cette menace, de ces matchs de Ligue des Champions qui étaient menacés par l'État islamique, on s'est dit, ça y est, c'est arrivé. Ce qui devait arriver est arrivé ce soir. Alors, en l'occurrence, ce n'est pas le cas officiellement. Le parquet réfute la piste terroriste pour le moment. Mais on a ce sentiment de vigilance permanent. On a aussi ces faits qui nous disent que c'est un policier national qui a interpellé l'auteur, que les policiers municipaux de Bordeaux, de Paris, pour ne citer qu'eux, ne portent pas d'armes. Comment, dans un contexte d'ultra-violence comme celui-ci et de menaces terroristes aussi importantes, peut-on continuer de désarmer ou de vouloir désarmer nos policiers?
Ouais, je pense qu'heureusement, ça va être de plus en plus minoritaire.
Il y a des vrais réticents. Hein, le maire de Bordeaux en est un, Madame Hidalgo en est une autre.
Il y a des vrais réticents et on a vu encore dernièrement un élu NUPES apparemment s'étonner qu'un policier porte une arme.
On va montrer cette image juste après vous. Tiens, on va la montrer cette image avec Amaury.
Je pense que ça, c'est l'idéologie versus la réalité, ce que j'ai d'ailleurs dit déjà. Mais donc oui, on a encore malheureusement une forme d'idéologie qui est très éloignée de la réalité de notre société aujourd'hui.
Amaury, alors on va faire une petite parenthèse. On reste bien sûr sur cette actualité prioritaire, mais comme vous l'évoquez, avant bien sûr qu'on apprenne cette tragique attaque à Bordeaux, on avait prévu d'en parler ce soir. Et je pense que dans le contexte actuel, on peut tout de même se permettre une petite minute d'évoquer ça, Amaury. Vous vouliez nous en parler ce soir au conseil municipal de Besançon. Grégory Joron vient de le rappeler.
rappeler, il y a cette scène hallucinante qui fait écho à la problématique qu'on est en train d'évoquer. Un élu NUPES dans ce conseil municipal, un des chefs de la police de Besançon qui est dans l'hémicycle du conseil municipal.
Le chef de la police de...
C'est le chef de la police de Besançon. En fait. Je lance la séquence.
Oui,
et donc cet élu NUPES qui ne supporte pas et qui reproche aux policiers en uniforme avec son arme de service d'être en uniforme avec son arme de service. Regardez.
Globalement, moi je tenais à vous remercier d'être présent régulièrement à des réunions publiques avec les habitants. Je regrette que vous soyez présent aujourd'hui en armes dans une assemblée républicaine, comme le veut normalement la règle.
Je suis un policier de la République et je suis armé par la République. Et comme je suis policier, je porte mon arme. Et le 19 mars 2002, au conseil municipal de Nanterre, il y a un individu qui est entré, qui a tué 8 conseillers municipaux, qui en a blessé 19. Peut-être que s'il y avait eu un policier armé, ce ne serait pas arrivé.
Amaury, un mot sur le contexte quand même de cet échange lunaire.
Bien sûr, oui, ça s'est passé le 4 avril dernier. En fait, le policier qu'on voit, il s'appelle Yves Cellier, donc il est effectivement directeur interdépartemental de la police pour le DOUPS. C'est un policier qui a 20 ans d'expérience, qui a notamment qui est chevalier de l'Ordre national du Mérite, qui a une grosse expérience. Et effectivement, ce jour-là, il était venu à la demande de la maire de Besançon, Anne Vigneault, maire écologiste, pour faire le bilan de l'année 2023 de l'insécurité pour la ville de Besançon. Et c'est là, en fait, il y a eu d'abord, il a exposé ce bilan, et ensuite, à l'issue de ce bilan, il y a eu un moment de questions-réponses, et c'est là que donc Kevin Bertagnoli, l'élu NUPES, exactement, s'est dit, je vais poser une question, et avant cela, je vais en profiter pour lui faire une leçon sur le fait qu'il ait son arme de service. Ce policier,
il n'a pas fait le voyage pour rien, l'élu, parce que la réponse l'a mouché.
Il faut bien comprendre, était là dans le cadre de son travail, en uniforme, et donc quand il est en uniforme, avec son arme de service qu'il n'allait pas laisser dans sa voiture, ce qui est très imprudent.
Je voulais qu'on voit cette vidéo, et Grégory, vous allez bien sûr réagir, mais Johan, peut-être un regard politique là-dessus, je voulais qu'on voit cette vidéo, parce que dans un contexte comme celui qui est le nôtre, avec cette menace terroriste, ces différentes rixes, ces attaques, cette ultra-violence, avoir encore des élus politiques, être dans un déni pareil, et alimenter cette haine du flic, parce qu'il faut le dire de cette façon, je trouve que cette séquence est valable ce soir pour raconter également la situation de notre pays, et c'est intolérable, je trouve.
C'est cette gauche qu'on appelait autrefois la gauche angélique, qu'on pourrait maintenant qualifier de gauche déconnectée, mais en réalité de gauche dangereuse. Parce que c'est cette gauche qui considère que le simple fait que les policiers soient armés va générer de la violence. C'est cette gauche qui veut désarmer les policiers. Jean-Luc Mélenchon l'avait dit. Il avait dit, si vous désarmez les policiers, qu'ils sont armés moins lourdement, eh bien les délinquants qui seront en face d'eux seront moins violents. Ce que vous vous rendez compte de la logique du raisonnement dans le contexte actuel. Donc oui, c'est cette gauche qui est en partie dangereuse. Je reprends ce terme-là parce que effectivement, si vous l'écoutez, eh bien vous avez des policiers qui sont moins armés et donc qui sont moins capables de faire face à la violence et à l'insécurité grandissante de ce pays. Les policiers sauvent des vies grâce à leurs armes. Les policiers ne tuent pas avec leurs armes. Ils ne tuent pas. Mais quand évidemment vous considérez que la police a des armes pour tuer, quand vous dites la police tue, il est évident que vous souhaitez la désarmer. Donc c'est ce logiciel d'extrême gauche qui est absolument nauséabond.
Je rappelle qu'en 2002, à Nanterre, un assaillant avait fait dans le conseil régional 8 morts, blessé 19 personnes, et il s'était suicidé, défenestré au moment de sa garde à vue. Grégory Joron, la réponse de ce policier, je trouve, est parfaite. C'est la meilleure possible. Ces gens qui crachent sur les forces de l'ordre seraient les premiers heureux, en plus, avoir un officier en armes s'ils étaient attaqués. Je suis sûr que cet élu, s'il s'était retrouvé sur les quais de Bordeaux ce soir, mais il aurait été très heureux de voir des policiers en armes pour l'occasion.
Mais il ne l'aurait pas tweeté, pour le coup, non plus, je pense.
C'est vrai aussi, vous avez raison.
Mais oui, c'est une réponse qui est...
Et de quoi ils ont peur? Parce que c'est quand même rassurant d'avoir des policiers en armes proches de soi.
Je l'écris. Non, mais on est typiquement dans l'idéologie versus la réalité. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a l'idéologie qui amène à dire et à faire cette remarque à un policier, même s'il est directeur interdépartemental, mais dont on voit régulièrement son action avec les collègues de terrain sur des opérations, parce que ça a été dernièrement à Besançon sur une opération Place Net. Et on voit que ce directeur est plutôt sur le terrain, faut le saluer. On voit que sa réponse, encore une fois, est implacable et limpide. Et surtout, l'étonnement de l'élu de la NUPES démontre surtout l'idéologie. Être étonné aujourd'hui qu'un policier porte son arme et potentiellement n'est pas peut-être que ça à faire de venir sur cette réunion-là, et peut-être qu'après il a aussi une opération de terrain à superviser et il ne va pas faire un aller-retour pour faire plaisir à monsieur l'élu et à déposer son arme. Voilà, je crois qu'il n'y a encore que ce genre de personnes qui sont étonnées en effet de voir un policier en tenue avec une arme à la ceinture.
Je découvre la réponse de ce monsieur, de l'élu Kevin Bertagnoli, qui a posté ce message. La tradition républicaine veut que l'on n'entre pas armé. Il a oublié une petite faute, mais c'est pas grave. Vous ne l'avez pas à l'écran ? Ah, d'accord. La tradition républicaine veut que l'on n'entre pas armé dans une assemblée délibérante. J'ai une grande estime pour le travail de nos forces de l'ordre, mais attaché à notre héritage républicain, je préférerais toujours que celles-ci déposent leur arme en entrant dans l'assemblée. Merci, monsieur Bertagnoli. Alors, Amaury, je voulais vous poser une question également, parce que quel est le souci en fait entre cette municipalité et les forces de l'ordre? Il y a des antécédents?
Alors, j'allais dire avec la police, non, mais avec la sécurité en tant que telle, la sécurité publique, il y a un rapport très ambigu de cette municipalité. D'abord, il faut savoir
municipalité
que...
Municipalité de quel bord politique?
La maire est écologiste, mais d'accord, derrière elle, elle a une union, si vous voulez, de gauche, un peu NUPES, enfin, il y a des communistes, il y a un peu de tout. Et déjà, il faut savoir que dans la municipalité, on ne parle pas de sécurité publique, mais de tranquillité publique. Ce n'est pas exactement la même chose. Et vous allez voir que les choix de la municipalité sont très marqués. Déjà, la maire, elle a toujours expliqué son souhait de ne pas armer la police municipale, ce qui fait que du coup, sa police municipale n'a pas certaines prérogatives pour agir et ne peut pas travailler la nuit. L'autre point aussi, c'est les caméras de surveillance, qui est un gros point de cristallisation. Vous avez, ça a commencé par exemple en septembre 2022, vous avez eu une fusillade et à ce moment-là, vous avez la préfecture qui a demandé à la ville d'élaguer les arbres pour permettre justement la bonne utilisation des caméras de surveillance déjà en place. Et à ce moment-là, eh bien, la municipalité, qui est écologiste, avait un peu traîné des pieds en disant « Non, mais il faut voir, c'est la nature, il faut respecter les arbres » et donc n'avait pas tout de suite obtempéré. Il y avait aussi un autre couac qui s'était passé avec Gérald Darmanin qui s'est rendu sur place.
Non, c'est pas la saison, c'est pour ça.
Ouais. Gérald Darmanin s'était rendu sur place en février dernier, justement au moment de l'opération Place Nette, parce qu'on avait quand même trouvé un lance-roquette et des armes d'assaut dans une cité de Besançon, et il avait proposé à la municipalité d'installer 50 caméras en plus qui seraient à 70% payées par le ministère de l'Intérieur. Et là, à ce moment-là, la maire avait refusé, alors que...
Guerre politique entre l'État et les municipalités.
Non, mais c'est,
vous connaissez ça par cœur. Hein.
C'est assez fort, et même au moment, je finis aussi par ça, au moment de la loi immigration, lorsque cette loi justement voulait réguler l'immigration, notamment pour des questions de sécurité, la maire de Besançon, à ce moment-là, était allée dans le musée de la Résistance, et avait dit qu'il faut résister contre cette loi. Et je vous propose d'écouter, je ne sais pas si vous êtes au courant, Julien, mais c'est vachement intéressant, un élu de Besançon que j'ai pu interroger aujourd'hui.
Non, on n'a pas le temps, je suis désolé. Okay. Amaury, mais peut-être en substance, rapidement, pour conclure.
Ah non, mais qui raconte toutes les dérives de cette municipalité. Lui, il est dans l'opposition, bon, il était là à ce moment-là.
Pardon, Amaury, mais je voulais qu'on fasse une parenthèse avec cette affaire qui est très symptomatique d'une forme de mal français et d'entretien par une certaine partie de la classe politique de la haine anti-police. Mais restons concentrés, si vous le voulez bien, sur ce qui se passe à Bordeaux. Ça fait écho, évidemment, Jean-Claude Dacier, ce qui vient d'être dit par Amaury.
Il ne faut pas oublier que la NUPES... Il y a des degrés, évidemment, ça dépend des personnalités, mais ce sont des révolutionnaires. Et qu'on le veuille ou non, la police et la NUPES, ça marchera jamais. Parce que quoi ? Parce que la police, quand ça va mal, elle se met au service du régime, entre guillemets, bourgeois, qui est censé nous diriger. Donc, faut pas rêver. Les gens de la NUPES seront toujours... Alors, ça s'exprime plus ou moins...
Éloignés du bon sens ?
Ils sont des gauchistes révolutionnaires. Ils ont le droit de l'être, cher ami. Mais... Il ne faut pas se tromper sur à qui.
Mais la gauche.
Et sur qui?
La gauche, ce n'était pas ça. La gauche, c'était la police républicaine.
Vous parlez vous parlez d'une gauche.
J'étais né, donc ce n'est pas si loin que ça.
Et qui va peut-être autour de Glucksmann se rassembler, mais sans la NUPES. Donc pour le moment, autour de Mélenchon et de la NUPES, et je crois que la messe est dite. Encore une fois, nous avons affaire, et ils ont le droit de l'être. Je ne leur conteste pas ce droit.
Non, mais...
Ce sont des...
Si c'est au détriment de la sécurité des Français...
Ça me
La vraie question.
Et je vais vous dire, même les électeurs de cette gauche trouvent qu'il y a, il y a une part de non-sens dans le fait de ne pas savoir lutter contre la délinquance.
La vraie question qui se pose, moi je vous reprends au bon, la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ces élus vont dans le sens d'une plus grande sécurité des gens qui sont censés administrer. Vous avez évoqué cette mairie qui semble emblématique, mais en réalité, la mairie de Bordeaux, elle n'est pas mieux. Celle de Nantes, et ça fait des années que la police municipale réclame d'être armée, la maire refuse. Sans parler de Grenoble, où Éric Piolle, quand il avait été élu, a enlevé des caméras de sécurité qui avaient été installées par la précédente mairie. Donc, on est face à des gens où on peut se demander si... Et quand ils ont de l'expérience, puisque Éric Piolle, pour parler de Grenoble, a été réélu, quand ils ont l'expérience, on regarde l'état de leur ville et on fait le bilan, et le bilan, il n'est pas... le bilan, il est carrément en leur défaveur. Donc aujourd'hui, cette idéologie, elle est peut-être révolutionnaire, comme vous dites, et ils ont peut-être le droit de l'être, mais en fait, ils sont quand même élus pour protéger leurs citoyens en premier lieu.
Oui, mais absolument.
Ça fait mal au cœur de voir cette situation et de voir... Grégory, ça fait mal au cœur de voir cette situation et de voir que vous avez des élus de la République qui sont là clairement pour vous mettre des bâtons dans les roues, en fait. Alors après, que le travail des policiers soit contrôlé, et c'est d'ailleurs la profession la plus contrôlée de France, c'est très bien, c'est normal. C'est normal d'ailleurs qu'il y ait une enquête ce soir autour de ce policier qui a utilisé son arme de service. Mais il y a une différence entre surveiller une profession parce qu'elle est armée et parce qu'elle a le monopole de la violence et la stigmatiser à tout
moment. Sans méfie. Bien sûr, les raccourcis qui sont faits avec particulièrement la police tue à chaque usage de l'arme ou presque sont extrêmement... dangereux, puisqu'à la fin, on stigmatise en effet l'action de mes collègues, leur professionnalisme, on essentialise tout. Et j'ai envie de dire, les élus de la NUPES, M. Mélenchon, en tête particulièrement pour la France insoumise, ne le fait jamais par hasard. Peut-être qu'il y croit réellement, et peut-être qu'il y a aussi énormément de calculs électoralistes derrière
tout ça. Il a un peu changé depuis quelques années, c'est
donc
plus
c'est
le même.
Forcément, ça fait mal au cœur.
Et on peut rappeler peut-être pour conclure à cet élu byzantin, je crois que c'est comme ça qu'on appelle les habitants de Besançon, que c'est un policier en armes qui a peut-être sauvé des vies ce soir à Bordeaux, bien qu'un assaillant a réussi à prendre la vie d'un homme et a blessé très grièvement un autre dans cette attaque à Bordeaux, donc en fin de journée, dans cet endroit très fréquenté qu'est le miroir d'eau, au cœur de la ville de Bordeaux. Il va être temps de marquer une courte pause. Vous allez retrouver Simon Guilin pour l'édition de la nuit, qui sera bien sûr très largement consacré à cette actualité et aux derniers développements. Je vous remercie tous les six d'avoir participé. Merci particulier à vous, Grégory Joron, qui êtes resté longuement sur ce plateau ce soir. Un repos bien mérité. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup en plus du repos d'ici les Jeux Olympiques pour les forces de l'ordre. Donc, merci d'être resté avec nous. Adrien Fontenot, Céline Génaud, Maureen Vidal, Coralie Deleplace m'ont aidé également à tenir l'antenne avec vous ce soir pendant 2 heures. À demain pour Soir Info avec peut-être, espérons-le, d'autres actualités, mais surtout, bien sûr, la suite des développements de cette affaire de Bordeaux. Très bonne soirée à tous. L'info se poursuit, bien sûr, sur CNews.